BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel.
Et c'est parti, 19h30 pile en ce mardi soir. Toujours un vrai plaisir que de vous retrouver. Merci d'être là, merci d'être fidèle à Tech & Co et à BFM Business. Chaque soir, vous le savez, du lundi au jeudi, de 19h30 à 21h, on plonge dans l'actu tech. Bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne, à la radio, à la télé, et puis bien évidemment, après les replays, les podcasts qui vous attendent. Avec ce soir, au sommaire de ce Tech & Co, la quotidienne, l'émancipation d'OpenAI, voilà, qui n'est plus menottée face à Microsoft. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? On va en parler dans un instant avec nos experts. On évoquera aussi Google qui, bien voilà, sa coquine avec la défense américaine. Le seul problème, c'est que plus de 600 cadres de chez Google ne sont pas d'accord. Et puis, on évoquera ce moteur de recherche, alors encore naissant, hein, encore bêta, qui s'appelle Ibu et qui veut défier Google. Autant vous dire que la tâche va être un petit peu compliquée, mais laissons-leur la chance. On en parlera tout à l'heure avec l'un des fondateurs de ce moteur de recherche qui sera avec nous. Voilà le sommaire de ce Tech & Co, la quotidienne ce soir. Encore un grand merci d'être là et bienvenue.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Et Tech & Co, la quotidienne, on débrief l'actu tech, vous le savez, chaque soir pendant une heure, de 19h30 à 20h30, avec ce soir sur le plateau de Tech & Co, Salim Nassur. Salut Salim.
Bonsoir.
Salim qui est fondateur de Mars avec deux A, ne l'oubliez pas, et qui accompagne donc les entreprises qui veulent goûter à l'IA et surtout comprendre comment ça fonctionne. À tes côtés, Salim, c'est Christophe Honnête. Salut Christophe.
Bonsoir François.
Christophe, vous le connaissez peut-être car ça a été l'une des têtes pensantes de Microsoft il y a quelques années de cela au niveau Europe, et aujourd'hui tu es Senior Advisor chez Seven2. Merci chaleureux d'être là, mon cher Christophe. Et nous avons aussi Jérôme Colombin. Salut Jérôme.
Bonsoir François.
Jérôme, journaliste tech, mon camarade de toujours, que vous pouvez écouter, regarder avec son podcast quotidien Monde Numérique.
Yes.
Voilà. Bah, écoutez, ravi de vous avoir tous les trois. On va tout de suite plonger dans l'actu avec ChatGPT qui reprend son indépendance après avoir injecté 13 milliards de dollars dans OpenAI. Microsoft donc perd son exclusivité de distribution d'OpenAI. C'est ce qu'ont annoncé donc les deux groupes hier soir. C'est la fin d'un mariage qui a lancé la révolution de ChatGPT. Rappelez-vous, c'était en 2022. Anthony Morel nous racontait tout ça ce matin. On l'écoute et puis après, bien évidemment, on revient sur ce sujet avec nos débriefeurs.
Alors c'est une séparation à l'amiable, on pourrait dire un mariage qui se transforme en union libre d'une certaine manière, c'est-à-dire que les deux entreprises dont les destins sont liés depuis 2019 vont quand même continuer à travailler ensemble, simplement l'exclusivité qui les liait n'existe plus, et ça change pas mal de choses. C'est-à-dire que concrètement, jusqu'ici, quand une entreprise ou quand une administration voulait utiliser ChatGPT à grande échelle, bah, la porte d'entrée naturelle, c'était Microsoft, c'était les serveurs de Microsoft et Microsoft Azure. Désormais, OpenAI pourra proposer ses modèles ailleurs, c'est-à-dire via par exemple Amazon Web Services, Google Cloud, pourquoi pas, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de monopole commercial. C'est une séparation qui avait déjà commencé au mois d'octobre, ils avaient commencé à desserrer un petit peu les liens, c'est-à-dire que chacun avait récupéré le droit de travailler avec d'autres entreprises d'intelligence artificielle. On sait aussi qu'OpenAI travaille sur des appareils connectés avec de l'IA embarqué, par exemple sur des smartphones, et ça ne se fera pas avec Microsoft. Donc on sentait déjà que la séparation arrivait, et ça acte un changement d'époque, c'est-à-dire que Microsoft a aidé OpenAI à décoller. Ils ont quand même investi 1 milliard de dollars en 2019, donc à une époque où personne ne parlait d'intelligence artificielle dans le grand public. Ils ont cru au projet très très tôt. Aujourd'hui, clairement, OpenAI, bah, c'est plus une start-up, ils n'ont plus vraiment besoin de Microsoft, ils veulent contrôler leur propre destin. Alors on pourrait se demander pourquoi Microsoft accepte une séparation dans laquelle ils ont tout à perdre, mais en fait ils n'ont pas vraiment intérêt à se fâcher avec leur ancien petit protégé, et puis surtout, ils ont déjà bien rentabilisé leur pari, que ce soit en termes d'image, de revenus cloud, et puis cette participation de 13 milliards de dollars, le total de leurs investissements. Bah clairement, s'il y a une introduction en bourse à un moment, ils vont les faire fructifier assez largement.
Voilà donc, OpenAI s'émancipe, c'est bien ça, hein. Microsoft ne sera plus l'unique client finalement d'OpenAI. OpenAI va pouvoir voler de ses propres ailes. On sait que Amazon a approché OpenAI il y a quelque temps de cela. Microsoft avait tiqué à l'époque. Et bien maintenant, ils pourront plus tiquer puisqu'ils auront le droit, enfin en tout cas OpenAI aura le droit de passer des accords avec Amazon, mais avec d'autres aussi, hein, d'autres géants de la tech qui pourraient avoir besoin en fait des services d'OpenAI. La question qu'on peut se poser, est-ce que c'est plutôt une bonne opération pour OpenAI ou est-ce que c'est pas forcément une si bonne opération? Christophe, tu as ton avis là-dessus?
Oui, moi
et après, ça serait intéressant d'avoir justement les points de vue de Salim et de Jérôme.
Moi, j'ai un avis pour dire que ce divorce, il est clairement gagnant pour Microsoft. Et je n'ai pas un biais particulier. Je dois dire que je me suis demandé si c'était la maestria de la négociation en position de force ou le fait que OpenAI soit, à mon avis, un peu plus aux abois. Mais Microsoft, de toute façon, voulait s'émanciper lui-même d'OpenAI puisqu'il a plutôt la vision de commoditiser les LLM pour pousser les agents et se mettre au-dessus. Il a profité au début du fait qu'OpenAI était la star pour se positionner sur l'IA et ne pas prendre du retard. Mais là, dans le deal tel qu'il est passé, effectivement, OpenAI peut vendre au travers, peut trouver de la distribution à travers Amazon, à travers Gemini ou que sais-je, enfin Gemini c'est peu probable, mais d'autres acteurs, donc ça ils peuvent le faire, c'est positif pour eux. Mais du côté de Microsoft, eux, ils avaient à reverser 20% des revenus qu'ils faisaient autour d'OpenAI, ils n'ont plus ça, ils vont continuer à toucher 20% des revenus sur OpenAI, de ce qu'ils vendent sur la plateforme et de ce qu'OpenAI vend sur les autres plateformes.
Jusqu'en 2030.
Y compris sur les acquisitions potentielles que OpenAI ferait. Donc, ils sont libérés d'un certain nombre de contraintes financières. Ils vont toucher.
Enfin, ils sont plus menottés, mais ils ont quand même une menotte accrochée.
Oui, oui. Enfin, c'est plutôt, à mon avis, OpenAI qui les a. Et l'autre élément, c'est que moi, je considère qu'OpenAI aujourd'hui, quelque part, la concurrence, elle est arrivée un peu plus vite que ce qu'on avait vu dans le passé, lorsque Google s'était imposé sur le marché des moteurs de recherche ou lorsque Facebook était devenu la star des réseaux sociaux. Là, on a quelque part une sorte de peloton de tête dans le lequel il y a effectivement OpenAI, mais pas seulement, il y a Anthropic, il y a Gemini, et ils n'ont pas forcément toutes les ressources que les autres concurrents ont, ils n'ont pas de vache à lait pour pouvoir les financer, il faut qu'ils arrivent à montrer leur propre sustainabilité, leur propre soutenabilité de leur modèle, juste avec les LLM. Aujourd'hui, pour 25 milliards de revenus, ils font 13 milliards de pertes, et comment arriver à il faut qu'ils atteignent leurs objectifs, et on commence à voir qu'ils ont du mal à atteindre même les cibles de chiffre d'affaires qui s'étaient données en interne. Donc c'est quand même beaucoup plus tendu dans un contexte où il faut absolument qu'ils lèvent des fonds. Et donc moi je pense que leur futur est quand même assez compliqué et que Microsoft a fait un deal pile je gagne, face tu perds. C'est-à-dire que bah, finalement je vais garder 27% de la boîte, je vais prendre 20% des revenus jusqu'à l'horizon 2030. S'ils atteignent leurs objectifs, ils vont faire 200 milliards en 2030, bah, 20% c'est pas mal, plus le pourcentage dans la boîte. Et puis si ça marche pas, bah, je vais continuer à développer, je vais commoditiser encore plus fortement les LLM. Donc pour moi c'est un accord,
c'est plutôt Microsoft qui est gagnant de cet accord, en tout cas de cette nouvelle liberté d'OpenAI. Alors que sur le papier on peut se dire que pour OpenAI, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Qui enchaîne? Jérôme après Salim. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu es d'accord avec Christophe?
Bah, j'écoute avec attention Christophe, que je trouve que c'est un avis très éclairé, mais que spontanément, effectivement, j'aurais pas partagé, parce que non, moi je suis plutôt avec une vision un peu plus basico-basique. Et comme tu dis, sur le papier, on a l'impression que c'est quand même OpenAI qui s'émancipe. Alors après, si je comprends bien aussi ton interprétation, c'est de dire que finalement, ça va pas si bien que ça pour OpenAI, et que du coup, Microsoft a peut-être intérêt à s'en débarrasser d'une certaine manière.
À s'en distancier,
voilà.
Ça, je pense.
Bon, OpenAI fait un pari, c'est de pas prendre le bouillon aussi vite qu'on l'imagine.
Non, mais pour eux, de ce point de vue, c'est positif parce qu'ils vont pouvoir avoir accès à une distribution
voilà,
en dehors.
Quand même.
Mais oui, même. D'accord. Mais le problème de fond demeure. Et pour Microsoft, eux, quelque part, ils se détachent d'OpenAI. Ils n'ont plus ces contraintes de pourcentage additionnel à donner. Ils ouvrent aussi, ce que j'ai oublié de mentionner, le fait qu'ils sont en train de créer leur propre puce Maya en concurrence potentielle avec Nvidia. Et OpenAI leur imposait de tourner sur Nvidia. Ça a sauté également. Donc, il y avait tout un ensemble de clauses qu'ils ont profité pour dégager d'un accord qui était un peu compliqué.
Après, ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, c'est cette idée de commoditiser les LLM. Parce qu'effectivement, c'est la petite musique là, qui est dans l'air.
Oui.
On a l'impression que c'était la révolution qui allait tout manger. Et puis, en trois ans, on est déjà à se dire, bon, bah, finalement, c'est acquis. C'est banalisé. Les Chinois qui arrivent avec DeepSeek, qui font la même chose ou mieux pour pas grand-chose, pour pas cher. Effectivement, autant les années 2024 et un peu 2025 ont été incroyables pour OpenAI, qui était sur le toit du monde. Et là, tout d'un coup, on a l'impression qu'ils sont en train de dégringoler dans les escaliers, un petit peu.
Salim, alors, est-ce que tu es d'accord avec la vision de Christophe? Est-ce que ce deal, finalement, qui s'arrête, mais une nouvelle aventure qui commence pour OpenAI, qui se retrouve émancipée finalement, c'est plutôt une bonne chose ou une mauvaise chose pour OpenAI?
Ça vous étonne, je suis d'accord avec tout le monde.
c'est étonnant parce que d'habitude tu dis, bah, je suis pas d'accord les gars,
je suis pas d'accord.
Cela dit, non, après il nous reste plein d'autres sujets où peut-être que tu seras pas d'accord.
Non, blague à part, il y a les deux en fait, parce que il y a pas, de mon point de vue encore une fois, ça n'engage que moi, mais il y a pas un grand gagnant et un perdant dans les deux. Les deux sont gagnants quelque part. Et ils sont tellement gagnants que c'était écrit dès le départ. Quand on regarde le contrat, ils devaient s'émanciper à un moment. Là où, c'est rigolo parce qu'ils n'en parlent pas tellement, c'est là où ils devaient s'émanciper, c'est quand ils auraient atteint l'AGI, donc cette fameuse intelligence artificielle générale.
Qui n'arrive pas.
Qui n'arrive pas, mais qui a
disparu. Qui est déjà là.
Non, mais
on sait pas.
Si on regarde, parce qu'il y a eu des insights, il a disparu en fait du contrat. Ce petit point a disparu. Donc ils peuvent s'émanciper avant d'avoir atteint l'AGI. Donc ça, c'est un premier truc qui est intéressant. Et là où je rejoins effectivement complètement, alors c'est gagnant, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, c'est gagnant pour OpenAI. Mais là où je rejoins complètement Christophe, c'est que c'est gagnant, bien sûr, pour Microsoft aussi. Et là où ça me paraît hyper évident, mais c'est rigolo parce que je le disais déjà, et ça vient pas de moi, moi j'avais entendu ça par Sundar Pichai, qui était mon boss chez Google, qui disait, l'IA, ça va être comme l'électricité. Et donc, dans cette notion de commoditisation, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, l'IA, elle est liquide et c'est plus quelqu'un qui est propriétaire. C'est l'IA, de toute façon, et je le dis toujours, moi, à des dirigeants avec lesquels on bosse, c'est qui me disent, c'est quoi le ROI? Je dis, mais c'est quoi le ROI de l'électricité? Si demain, tu éteins l'électricité, ton entreprise, ça ne marche plus. Donc, aujourd'hui, si tu éteins l'IA, ton entreprise, ça va être plus compliqué. Et en fait, aujourd'hui, ce qui se passe au niveau d'un Microsoft, puisqu'ils ont signé un accord avec Anthropic récemment, c'est de se dire, je vais commencer à mettre un peu d'OpenAI, un peu d'Anthropic, donc on commence à comprendre ce qu'est l'orchestration. Et au niveau des entreprises, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a plus un LLM majeur, qui va être juste OpenAI, ou demain Copilot, ou encore un Gemini. C'est comment j'arrive à orchestrer tout ça. Et ça, on l'avait déjà vu à l'époque du cloud, en fait. Moi, à l'époque où j'étais chez Google Cloud, donc ça s'appelle plus comme ça, mais il y avait un projet qui s'appelait Anthos. Et Anthos, c'était quoi? C'était de dire, on sort du lock-in, en fait, des vendeurs, en fait, et on se dit, ben, on peut prendre un peu de cloud un peu partout. Donc là, en fait, c'est en train de se rejouer la même chose sur l'IA, c'est de se dire, on a un orchestrateur. Donc, il y a des boîtes comme ça, et notamment, je ne sais pas si vous connaissez NumSpot, qui est une boîte française, qui fait ça. Donc, ils orchestrent et ils vont aller choisir les bons morceaux de cloud, de compute, d'IA.
Les bons LLM.
Voilà, les bons LLM. Et si, par exemple, tu es dans une entreprise, et ce qui arrive dans beaucoup d'entreprises françaises, où tu veux garder ta souveraineté, ben, ils vont t'isoler cette partie de data sensible, où tu vas garder ta souveraineté. Donc, c'est ça qui est en train de se jouer. Et je trouve que, finalement, les deux sont gagnants, si ce n'est que Microsoft a des reins un peu plus solides qu'un OpenAI pour tenir dans la durée.
Et, alors, parce qu'on parle d'émancipation d'OpenAI, ce qui va être intéressant, c'est quels sont aujourd'hui les clients potentiels d'OpenAI dont ils n'avaient pas accès auparavant avec ce partenariat. On parlait d'Amazon. Est-ce que vous en voyez d'autres?
Il y a des grands groupes. Tu vois, il y a des grands groupes. Et d'ailleurs, c'était un moment des sujets de
fatigue. Avant, ils ne pouvaient pas. Oui, mais ils vont passer des deals avec des grands groupes.
Ils vont devoir travailler avec un cloud provider. Ils vont pas vendre à.
Oui, mais regarde, sur la partie IA, si tu veux, il y avait eu. Alors, directement. Je sais plus, je crois que c'était. Je sais plus si c'était Accenture. Non, c'était un autre. Une grosse big firm où OpenAI avait vendu et ça avait fait un plaquage avec Microsoft parce que justement, ils auraient préféré que ce soit que du copilot derrière, etc. Donc, aujourd'hui, ils vont aller vers des grands groupes. Ils vont être en frontal face à du copilot sur la partie IA. Par contre, ils n'auront toujours pas l'infrastructure parce que ce sera du Azure, du AWS. Et là, on revient justement sur ces schémas de grands orchestrateurs.
En fait, c'est plus que des clients, c'est des prestats, c'est des fournisseurs.
Enfin, il y a deux choses. Il y a l'infrastructure cloud pour faire tourner OpenAI. Il n'y avait que Azure avant. Maintenant, il peut y avoir Azure et Amazon, pour simplifier. Okay. Mais précédemment, ils pouvaient très bien... D'ailleurs, c'est leur voie de sortie. Il faut qu'ils développent le B2B. Ils ne peuvent pas rester... donc, ils doivent, pour développer le B2B, ils sont en concurrence avec Copilot.
Ouais, alors pas que. Attends, je me permets.
Entre autres.
Oui, non, mais bien sûr. Mais il y a ça, mais il y a la couche, la surcouche, si tu veux, qu'on ne voit pas, qui est la couche service. Et en fait, aujourd'hui, aussi bien un OpenAI qu'un Anthropic, ils sont en train de développer des équipes qui vont apporter cette couche service que faisaient des Capgemini avant.
Mais Ou un Palantir,
exactement. Parce que ces entreprises de conseil ne comprennent plus tellement. Et donc aujourd'hui, tu as cette nouvelle couche de service qui vient justement orchestrer au niveau des entreprises.
Quand OpenAI cherche à vendre à des grandes entreprises, il est concurrent potentiel de Copilot.
Ah, mais complètement, exactement.
Il tournait sur Azure, mais il pourra en plus tourner sur Amazon.
Exactement.
C'est ça la différence.
Exactement.
Bon, écoutez, peut-être qu'un jour Sam Altman déclarera si cette émancipation est plutôt une bonne chose ou pas.
De toute façon, Sam Altman, tu sais, il peut te dire blanc.
Oui,
blanc,
ouais, c'est ça. Sachant qu'on n'a pas parlé de la partie open source. Parce que quand on parle de commodité, ben forcément, tu as du closed source qui va être là et tu as de l'open source. Donc pareil, dans les boîtes aujourd'hui, c'est Et tu le disais, il y a des modèles chinois qui font 90% du job pour beaucoup moins cher. Donc c'est ça aussi où il va y avoir un arbitrage. Est-ce que je prends quelque chose de propriétaire qui coûte une blinde, ou est-ce que je prends quelque chose de
open source qui coûte beaucoup moins cher,
un peu moins, bah, sur certains,
en faisant confiance à un LLM chinois aussi,
avec une confiance moindre effectivement, mais en fonction des différentes criticités de la tâche, tu vas arbitrer en fait.
Tech & Co, il est 19h45 sur BFM Business. Merci d'être là. Toujours Christophe Honnête, toujours Salim Nassur, Jérôme Colombin. Tiens, Salim, tu auras sans doute pas mal de choses à dire concernant notre premier sujet, prochain sujet, puisqu'on va parler de Google. Rappelons que tu avais un poste très important chez Google il y a quelques années. Google, donc, a signé un accord confidentiel avec l'armée américaine. C'est le média The Information qui le révèle. Le Pentagone veut utiliser l'IA de l'entreprise dans le cadre de missions classifiées. On est en train de revivre un petit peu l'épisode en et OpenAI il y a quelques temps. Hein. Et chez Google, c'est ça qui est intéressant, de nombreux cadres, plusieurs centaines visiblement, s'insurgent. Erwan Morris nous explique tout ça et puis on revient après sur le plateau de Tech & Co.
Dans une lettre ouverte, plusieurs centaines de cadres de Google réclament que l'entreprise renonce à fournir à l'armée américaine ses modèles d'intelligence artificielle pour des opérations classifiées. Pour ses salariés, directeurs et même vice-présidents, hors de question d'être associés à des affaires controversées. Il n'y a aucun moyen de s'assurer que ces outils ne seront pas utilisés pour faire de terribles dégâts ou pour rogner les libertés individuelles, s'inquiète un employé. Nous souhaitons que l'IA soit au service de l'humanité et non qu'elle lui nuise, écrivent les signataires, dont certains opèrent chez DeepMind, le cœur du réacteur IA de Google. Depuis plusieurs mois maintenant, l'administration Trump presse les géants de la tech de lui donner accès à ses modèles afin de bénéficier d'avantages stratégiques dans les conflits, mais pas sans rencontrer quelques résistances. Anthropic, qui a refusé en début d'année de donner l'accès de son IA au Pentagone, a vu 200 millions de dollars de contrats annulés par le gouvernement, associé à l'interdiction de travailler avec des agences fédérales. Mais le positionnement de la start-up avait dopé sa popularité et renforcé le sentiment de confiance de ses utilisateurs.
Alors c'est un sujet très intéressant parce qu'il est sensible, surtout en ces périodes où, on va dire, la géopolitique nous en apprend tous les jours. On est en période de guerre, de conflit, et est-ce que ces grosses boîtes américaines prennent part dans des accords avec des gouvernements? On en a parlé avec Anthropic, on en a parlé avec OpenAI, maintenant c'est Google. D'un côté, c'est tellement logique que Google finalement se rapproche en fait du gouvernement et du Pentagone pour des solutions d'IA, hein. Mais c'est intéressant parce que ça me fait penser à l'épisode Boston Robotics il y a quelques années. Je sais pas si vous en souvenez, peut-être que Salim, tu peux nous raconter ça. On revit à peu près la même histoire. Alors évidemment, c'est un autre sujet, mais qui était hyper sensible déjà à l'époque de chez Google.
Alors, ouais, t'as raison, il faut revenir un petit peu en arrière. Si on revient un peu en arrière, alors pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai passé presque 10 ans, un peu moins chez Google, et entre 2012 et 2013, Google a racheté à peu près tout ce qui se faisait de bien, et dans l'IA et dans la robotics. Et notamment, il y avait donc Boston Dynamics, si tu veux, et mais il y avait aussi DeepMind. Cette année-là, ils ont racheté DeepMind. Donc la couronne du joyau, quand même.
Et Boston, rappelez-vous, c'est ces fameux chiens.
Ces chiens, mais aussi
incroyables
avec Atlas.
Voilà.
C'est un robot.
Bien sûr.
C'était le nec plus ultra de ce qu'il y avait. Et déjà, à l'époque, c'est rigolo, parce que moi, j'en parlais avec mon ancien boss d'Orange. Je lui disais, mais enfin, il n'y a que moi qui vois ça. Mais si tu mets un humanoïde hyper puissant avec une IA hyper puissante dessus, t'as un truc qui commence à ressembler à un Terminator et qui peut aller vers du militaire, si tu veux. Et justement, à un moment, Google s'est débarrassé de Boston Dynamics parce qu'il y avait des polémiques, parce que...
Ils se sont débarrassés de ça parce que c'était un sujet qui commençait à sentir mauvais, finalement. Voilà. Mais surtout, et qui pouvait altérer leur image.
Complètement. Mais surtout, là, ce qu'on revit aujourd'hui avec ces centaines de signatures, et moi, j'étais à l'époque chez Google, on était des milliers, si tu veux, avoir signé une pétition, justement, pour un projet qui s'appelait Projet Maven, 2018. Hein. Mmh. Déjà, en fait, si tu veux, Google a basculé déjà vers 2016 avec un changement de stratégie, un changement de, tu vois, c'est là où Larry et Sergey, les fondateurs, commençaient à se retirer un peu.
Ouais, à prendre du champ.
Voilà. Et donc, en 2018, il y a eu la même chose qui se produit maintenant, c'est-à-dire que tout le monde, enfin, une grande partie de chez Google s'est mis en grève contre le projet Maven. Et le projet Maven, c'était quoi? C'était, ben, mettre de l'IA sur des drones armés de caméras pour pouvoir faire de la surveillance, en fait. Donc.
C'était pas bien méchant,
mais déjà.
Enfin, par rapport à ce que. Non, mais ce que je veux dire par là, par rapport à ce qui arrive là.
Oui, mais d'accord, mais c'est le début. C'est-à-dire
qu'à un moment, pour remettre un peu dans le contexte.
Non, mais bien sûr. Mais déjà, si tu veux, il y avait une lettre qui était partie justement à Sundar, en lui rappelant Google, à la base, c'est don't be evil. Donc, ne soyez pas diabolique, quoi, quelque part. Et finalement l'entreprise.
Ce slogan a pris un coup là. Bah,
c'est plus qu'il a pris un coup, c'est qu'il n'est plus là en fait. Ouais. Le slogan aujourd'hui c'est Do the right thing.
Ok.
Alors qu'est-ce que c'est le right thing?
C'est un peu plus pragmatique.
Bah, c'est moins
romantique.
Parce qu'à partir du moment où t'as les fondateurs, à partir du moment où t'as les fondateurs qui sont en recul, Do the right thing, c'est peut-être make more money. Hein, tu l'interprètes comme tu veux.
Bien sûr.
Donc, à un moment, c'est te dire, ben, justement, là où à un moment, en 2018...
Oui, do the right thing pour les actionnaires, par exemple.
Voilà, exactement. Ils avaient retiré ce projet. Donc, Google s'était retiré. C'était okay. Ken Green à l'époque,
donc,
la patronne
la communauté de Google avait gagné, finalement.
Avait gagné.
Face à la direction.
Exactement, face à la direction. La direction a retiré. Mais au final, ils se sont rendus compte quoi ? Ben, qu'est-ce qui s'est jeté sur les contrats Microsoft, Amazon ? Donc, aujourd'hui, ils se disent, ben, de toute façon, on n'a pas le choix. Parce que justement, do the right thing, c'est make more money. Et donc, à la fin, bah, y a quelque part, bah, se dire, bah, si on ne le fait pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Et on l'a vu hein, au niveau de l'investiture de Trump, ils sont tous au garde à vous derrière Trump.
Est-ce qu'on sait la teneur ? Alors, j'imagine qu'on ne sait pas tout, et loin de là, mais quel est le type de contrat que Google a passé avec le Pentagone ?
Justement, ressemble... tu réponds, je dis juste ça. C'est tout le sujet. Et moi, c'est ce qui m'inquiète le plus.
Non, mais c'est ça, toujours. C'est ça.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu rentres dans un truc qui est classified, et je l'avais déjà dit au moment de l'Open, de l'IA Act européen, ne pas savoir ce qu'il y a dans les modèles, c'est dangereux. Mais maintenant, en plus que ça va être classified, moi ça me fait très très
oui mais ça ressemble ouais. beaucoup à ce qui s'est passé avec Anthropic parce qu'effectivement ça inclut l'utilisation de l'IA pour la planification de missions, le ciblage militaire, etc. Mais il y a des garde-fous apparemment, comme pour Anthropic, dès lors qu'il s'agirait de développer des outils de surveillance de masse ou des armes autonomes.
Donc c'est pas une IA létale. C'est pas létal. Alors, dans l'absolu.
Google pourra dire s'il est d'accord ou pas au moment où l'armée dira tiens, on voudrait bien utiliser votre
On va tuer des gens. Vous êtes d'accord, Google,
voilà,
ou pas?
Exactement. Oui, mais c'est super important parce que effectivement, comme dit Saline, le truc c'est est-ce qu'ils seront informés, est-ce qu'ils auront toutes les billes pour décider, est-ce qu'ils pourront décider. Mais moi, ce que je trouve, c'est que cette histoire-là, il faut la remettre dans le contexte très immédiat. De ce qui s'est passé ces derniers jours, il y a 8 jours exactement, je crois que c'était le 18 avril très précisément, ça entre complètement en résonance avec le fameux manifeste de Palantir, le truc de, comment il s'appelle, Axel Karp, qui a fait couler beaucoup d'encre, dans lequel il expose en 22 points comment, de toute manière, la tech doit se mettre au service de la défense de la démocratie, même si c'est de manière un peu autoritaire, de la défense des États-Unis, et notamment comment la Silicon Valley doit, c'est le message qu'il veut faire passer, doit s'investir pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est patriotique, mais aussi parce que c'est une manière de rendre au pays et à l'État tout ce que l'État lui a donné, lui a permis de se développer, etc. Donc ça, c'est très américain. Et c'est exactement ce que préconise Axel Karp dans ce manifeste, et comme par hasard, une semaine après, Google dit ouais, bah, finalement, on va y aller aussi, quoi. Donc, ils s'alignent, à mon avis, ils vont pas être les derniers à annoncer ça. Hein.
Christophe.
Moi, ce qui me, effectivement, je fais le parallèle entre 2018 et aujourd'hui, et je me dis finalement, est-ce que Google est moins moral ou plus moral, je sais pas. Et je pense que ça pose la question de savoir est-ce que les entreprises vont avoir une morale ou pas. Je pense qu'une grosse différence entre 2018 et 2026, c'était le Trump 1 et là c'est le Trump 2 et pas du tout la même chose en termes de volonté de soumettre les acteurs.
L'armée n'est pas par principe immorale non plus. Oui. Non, elle peut être amenée à faire des choses un peu ardoses, mais bon, elle n'est pas là non plus.
Mais je pense que.
Semble-t-il.
Enfin, je pense que la bonne chose, c'est de se dire, dans une communauté d'individus, on définit des lois, et ce qu'il faut, c'est respecter les lois. Je pense que ça me paraît être, de ce point de vue, la bonne approche.
Juste pour revenir à ce que dit Axel Karp dans son manifeste, il dit, de toute façon, la question n'est pas de savoir si on doit, ou si on veut, ou si on peut développer des armes pilotées par IA. La question, c'est qui va le faire en premier.
Oui, c'est ça.
Et il ne faut pas qu'on soit les derniers à le faire.
C'est tout le problème. Effectivement, par rapport aux Chinois, c'est devenu un enjeu géopolitique majeur.
C'est rigolo ce que tu dis. Ça me fait penser à ce qu'a dit, je parlais tout à l'heure de DeepMind, mais Demis Sassabi, donc, qui est le boss de DeepMind, et celui et qui est vraiment quelqu'un de très très puissant que j'admire énormément. Il disait dans un podcast récemment, il parlait justement de cette course à l'échalote qui est partie, et il dit, moi, le truc qui me rend le plus triste dans tout ça, c'est qu'en fait, on était à deux doigts de faire des vrais trucs majeurs pour l'humanité, oui, à savoir sauver le cancer, à éradiquer le cancer,
mais ou faire ce genre de choses. Mais l'un n'empêche
pas l'autre. Si, quelque part, parce qu'en fait, tous ces cerveaux, aujourd'hui, ils sont d'un point de vue monopolisés pour faire du commercial, entreprise. Moi, j'adore, je suis dans le monde de l'entreprise, on fait plus de trucs. Tu vois, des choses qu'on avait à l'époque chez Google en directional, comme on dit, c'est-à-dire une tendance vers laquelle on voulait aller, on savait que ça allait prendre du temps. Aujourd'hui, ça arrive aujourd'hui parce qu'ils ont mis beaucoup plus de ressources. De même côté, il y a plus de ressources sur l'armée, mais quand tu as plus de ressources sur l'armée et plus de ressources sur le commercial, bah, tu as moins de ressources pour la santé ou pour des choses qui sont plus fondamentales. Tu vois, et donc, tu vois, au lieu de sauver l'humanité, tu la pousses un petit peu vers sa perte.
Tu as travaillé chez Google, tu connais un petit peu la posture. Comment va réagir Google? Parce que tu te mets à la place d'un Sundar Pichai. Il ne peut pas dire non à Donald Trump.
Ah non.
On est d'accord.
Enfin, il peut plus.
Il peut plus, voilà. Parce qu'il y a tellement d'enjeux. Si maintenant Google est dans le collimateur du gouvernement américain, c'est une catastrophe. Mmh. Donc il peut pas dire non. Il a 600 de ses cadres derrière.
600, c'est pas grand chose.
Non, c'est rien.
Mais c'est rien du tout.
Non, mais d'accord. Apparemment, ce sont des chercheurs quand même. Hein. C'est positionné
comme
étant.
Tout dépend du bruit que ça fait finalement.
Non,
tu vois, c'est ça la question.
Non, là, c'est over.
Donc
c'est game over.
C'est cuit.
C'est cuit parce qu'encore une fois. Et ça, il y a vraiment eu ce shift en 2016 hein, chez Google. C'est marche ou crève, en fait.
Okay.
Y a plus de... Avant, c'était une entreprise où il y a beaucoup de discussions et beaucoup de choses. Là, c'est... Comme on dit à l'américaine, c'est my way or the highway. Et c'est ça, donc soit tu me suis, soit tu prends la porte. Mais il n'y a pas tellement de champ de discussion, en fait. Donc,
c'est amusant parce qu'on a parlé d'OpenAI dans cette histoire de collaboration avec le Pentagone. On a parlé de...
Je te dis, ils vont tous y aller.
On n'a pas parlé de Microsoft.
Comme ils sont pas...
Et pourtant, Microsoft doit avoir des accords forcément avec la défense américaine.
En fait, on en parle parce qu'il y a quelques voix qui s'élèvent pour s'opposer.
Oui,
mais sinon, effectivement, sous main, il y a plein de choses qui...
Mais bien sûr, évidemment.
Mais tu vois,
évidemment.
Quand je regardais d'ailleurs la belle silhouette de Jérôme, je voyais des images de porte-avions, de Pentagone derrière toi, j'ai les mêmes derrière moi, et je pensais pas qu'un jour, quand j'ai commencé ma carrière dans la tech,
que j'allais associer
autant,
Google à...
Bah, oui. Non, mais même pas Google, mais que je suis allé autant parler de militaires, de dangers pour des citoyens, pour l'humanité, alors qu'à la base, la tech, c'était sympa, tu vois. Ouais. Et là... un peu moins.
Oui, mais attendez, c'est un peu exactement le même problème que le nucléaire. Quoi. Là, on revient vraiment sur l'idée que l'IA, c'est un peu comme le nucléaire, c'est à la fois le pire et le meilleur, qui est certes, il faut l'encadrer.
Non, je crois.
Il va peut-être falloir faire un peu limiter la course aux armements, mais on en a besoin. Ça va également faire partie de la force de dissuasion.
Ouais. Non, mais ton analogie est bonne avec le bémol, et moi, c'est ce que je dis depuis le début, hein, c'est-à-dire que c'est comme le nucléaire, en plus dangereux. Pourquoi ? Parce que déjà...
Le nucléaire, ça peut être dangereux quand même.
Oui, mais le nucléaire est contrôlé par quelques nations et quelques personnes dans ces nations. L'IA, aujourd'hui, c'est contrôlé, c'est plus contrôlé, en fait. Parce que même derrière tous ces grands titres, aujourd'hui, si tu prends un modèle en open source, tu peux faire beaucoup de choses et beaucoup de mal. De plus en plus. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir de l'uranium enrichi pour faire ça.
Oui,
tu as juste besoin
d'avoir
la bécane dans ton garage. Et donc, c'est beaucoup plus... Tu vois, la prolifération, elle va être beaucoup plus importante que le nucléaire.
Fabriquer un réacteur nucléaire dans son garage,
c'est plus compliqué.
Plus compliqué
et l'alimenter encore plus.
C'est sûr.
Tu as les terroristes du Mali là, qui se mettent à acheter des robots à la Chine, et hop, je te fais mon armée de drones.
Ou les narcotrafiquants qui font des sous-marins.
Ce qu'a fait l'Ukraine et la Russie, d'ailleurs, ces derniers mois.
Ils ont résisté grâce à ça, entre autres.
Il est bientôt 20h, les amis. Salim, Christophe, Jérôme, on revient dans un instant, juste après cette petite pause pour la suite de Tech & Co, la quotidienne. Et on va parler de véhicules électriques et notamment du côté de la Chine avec BYD. Petit passage à vide pour le géant de la voiture électrique. On en parle dans quelques instants. A tout de suite et merci d'être là sur BFM Business.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
20h02 en ce mardi soir sur BFM Business. Merci d'être là, Tech & Co, la quotidienne. Avec toujours pour commenter l'actu tech, vous le savez, on est là chaque soir, 19h30, 21h. Ce soir, Salim Nassur est avec nous, Christophe Honnête et Jérôme Colombin. Je vous propose maintenant de nous intéresser au secteur de l'automobile avec BYD qui confirme sa petite forme. Le champion de l'électrique chinois affiche un bénéfice net en chute de 55% sur un an. C'est quand même beaucoup. Son chiffre d'affaires est en baisse pour le troisième trimestre d'affilée. Le constructeur souffre tout particulièrement sur son marché domestique avec une demande en berne et une concurrence grandissante. Justine Vasseuil nous explique tout ça et puis on revient évidemment sur le plateau de Tech & Co juste après.
Daniel Craig, sa nouvelle égérie ne suffit pas à BYD. Son bénéfice est plombé principalement par la Chine. Le premier marché automobile mondial souffre. Au premier trimestre, les immatriculations y ont plongé de 20% sur un an. La disparition progressive des aides d'État pour l'achat de voitures électriques a notamment fait caler le marché. Et dans ce marasme, BYD tire moins bien son épingle du jeu que d'autres. Sur les trois premiers mois de l'année, il s'est fait doubler en termes de ventes par Geely, qui, contrairement à lui, a dans sa gamme des voitures thermiques. Pour rebondir, BYD compte sur la conquête de nouveaux marchés. Ses ventes ont progressé de 150% en Europe au premier trimestre, mais il mise aussi sur la technologie. Le constructeur vient ainsi de présenter à Pékin un SUV électrique d'une autonomie de 900 km, rechargeable en 9 minutes.
Voilà, BYD, donc, on va dire, dans une situation un peu compliquée. Après, voilà, le marché chinois est un peu complexe, on va dire, mais il y a des perspectives, on va dire, d'évolution qui sont importantes, notamment l'Europe et d'autres pays, hein, évidemment, du globe. BYD, vous suivez un petit peu l'actualité des véhicules électriques?
Oui, complètement.
Passionnant. Et puis, en plus, alors, je ne sais pas si vous êtes déjà monté dans une BYD. Ouais. On commence à en avoir quelques-unes. Hein. Moi, j'ai pris un Uber la dernière fois, c'était un BYD. Au début, je me suis dit, waouh, elle est super cette Tesla. Non, mais c'est vrai. Et après, j'ai regardé le logo, je me suis dit, c'est une BYD. Et en fait, je trouve que c'est même mieux qu'une Tesla.
Ça fait un peu plus quali.
Un peu plus quali, un peu plus chic.
Bon, oui, parfois, il y a un peu du doré et des petites étoiles.
Ouais, après, tout dépend des modèles que tu prends, je pense.
Et ils ont réglé le problème de la boîte à gants.
Là, ils ont des problèmes de boîte à gants.
Non, mais parce qu'en fait, tu sais, sur Tesla, il faut que tu appuies sur un bouton pour pouvoir. Enfin, un truc software pour pouvoir ta boîte à gants.
Ah oui, oui, oui.
Exactement.
Bah, ça, c'est là, ouais.
C'est ça, c'est
Cet écran tactile qui pilote tout, même la boîte à gants.
C'est pour ça que j'ai pas acheté de Tesla. T'as tout
c'est juste pour ça.
C'est insupportable. Ça.
Après, on s'y fait, non, j'imagine.
Oui, bien sûr. Et puis, c'est vachement bien.
Et puis, tu n'ouvres pas ta boîte à gants tous les 30, tous les jours. Quoi.
Normalement, non.
La plupart du temps.
Sauf aux États-Unis parce que ta carte.
Non, mais t'as pas
aux États-Unis parce que t'as un revolver dedans. Mais...
On dirait Windows Mobile.
Voulez-vous ouvrir à 100% votre boîte à gants, à 50%,
oui, voilà,
etc. Voulez-vous mettre les essuie-glaces dans la boîte à gants?
Voulez-vous ne pas la fermer?
Donc, oui, moi, je suis vachement. Et j'interviens souvent dans des boîtes de l'industrie automobile. Et c'est rigolo parce qu'il y a quelques mois, là, j'étais à Bruxelles où il y avait la grande patronne de BYD qui intervenait le matin et moi, je faisais la keynote de l'après-midi. Et c'est rigolo parce qu'en fait, ils étaient tous les constructeurs, les gens du réseau automobile, etc. C'était mobilisé à Bruxelles pour essayer de mettre des barrières à l'entrée à BYD, ce qui est une bonne et une mauvaise idée à la fois. Et donc moi, quand j'intervenais l'après-midi, je leur disais, mais en fait, au-delà des barrières, il faut aussi regarder, et c'est ce qu'on vient de dire, quelle est la qualité qu'ils ont amenée quand même. Qualité en termes de confort, qualité en termes d'expérience utilisateur et qualité sur les batteries.
C'est surtout ça.
Voilà, sur les batteries.
Et la bataille, elle va être là.
Et elle est complètement là. Et on en parlera, je crois que c'est le sujet d'après, ouais. Sur la batterie. Mais déjà, BYD, il faut quand même se rappeler qu'il y a 20 ans, ils ne faisaient presque pas de voitures en fait. Ils faisaient des batteries. Donc ils ont.
Oui, c'est leur métier.
C'est leur métier
premier.
C'est leur métier de base, c'est la batterie. Donc aujourd'hui, on se rend compte que sur la voiture électrique, le nerf de la guerre, c'est la batterie, le temps de recharge et surtout, le temps de recharge et l'autonomie et les deux. Et aujourd'hui, ils sont hyper forts là-dessus. Et en plus, ils sont hyper agressifs. Donc la baisse du parce qu'en fait, c'est la baisse de revenus, mais aussi un peu de bénéfices. Ça vient surtout, ouais. En fait, de...
En fait, c'est une baisse de bénéfices.
C'est une baisse de bénéfices, tu vois. Et en fait, la baisse de bénéfices, ça se joue aussi parce qu'il y a moins de subventions au niveau de la Chine. Et ça, c'est le grand plan chinois, si tu veux.
Et puis, j'ai un peu creusé ce sujet, ouais. Je ne le savais pas, j'avoue. Il existe des dizaines de constructeurs automobiles en Chine. C'est-à-dire que vous en avez qui arrivent tous les jours, qui vont durer 6 mois, qui vont disparaître. D'ailleurs, pétard, qu'est-ce qui se passe? T'achètes une voiture, je sais pas, moi, à Kellogg's, et 6 mois après, la marque Kellogg's, elle a disparu, quoi. Tu vois, qu'est-ce
que tu fais? C'est comme ça que ça fonctionne, et aussi pour les robots. C'est-à-dire que t'as une impulsion gouvernementale qui dit bon, on va faire des voitures électriques.
Alors là, bon, oui, on y va.
On s'y met des centaines.
C'est ceux qui sont subventionnés.
Mais ce qu'on
s'y met, et puis après, les meilleurs restent les.
Donc, en fait, pourquoi ils sont en recul? Parce que justement, il y a cette concurrence féroce avec une guerre des prix. Parce qu'évidemment, comme il y a des dizaines de constructeurs auto, ils se tirent tous la bourre, ils cassent les prix. Donc, BYD a été obligé de faire des promos aussi. Et puis, le marché chinois est morose actuellement. Un peu partout. C'est, en fait, voilà, aussi conséquence de
Du coup, ils vont se jeter sur nous. Exactement. Voilà. Et ils vont se rattraper sur les marges.
Et ils vont nous grignoter. Enfin, cela dit, être grignoté par BYD.
Non, grignoter, non. Ils vont nous avaler tout.
Nous avaler.
On s'expliquera ça à Renault et BMW. Il y a Christophe qui essaye de nous dire quelque chose.
Allez, Christophe, vas-y.
Parce que ce qu'on observe, ce qu'on ne sait pas suffisamment, je pense, c'est à quel point le marché intérieur chinois est un marché difficile et un vrai coupe-gorge, en fait. C'est que il y a, comme tu le dis, une sur... c'est vrai pour la voiture, mais pour tout un ensemble de secteurs.
Où, les en fait, smartphones, les télés.
Il y a des surcapacités.
Bien sûr, bien sûr.
Et donc, les acteurs préfèrent
après, le marché est tellement
sabrer leur marge. Et donc il y a une concurrence absolument féroce. Et d'ailleurs c'est le côté absolument dingue, c'est qu'on les a utilisés au début comme un atelier pour fabriquer. Ils sont montés en innovation. On pensait pouvoir accéder à leur marché, mais bon, tu t'imagines pas un Volkswagen ou un Stellantis aller sur le marché. Enfin, on voit bien la difficulté d'aller sur le marché chinois aujourd'hui. Donc c'est un marché qui est très très difficile. Et comme tu le dis, il y a aussi une autre caractéristique, c'est que c'est un marché qui est ultra digitalisé, IA-isé, qui fait qu'aujourd'hui t'as pas besoin de concession ou d'infrastructure majeure, tu vois, mettre un software sur un châssis, faire un beau logo, un truc, et je caricature un petit peu, mais lancer une marque de voiture, c'est possible. La preuve, comme tu le dis, il y a probablement pas loin d'une centaine d'acteurs crédibles sur ce marché. Donc c'est très
incroyable.
Compliqué. Mais comme le dit justement Jérôme, pour eux, là, ils vont gagner en innovation, en efficacité, et puis ils vont être encore plus agressifs à l'export.
Ouais, c'est-à-dire qu'ils vont arriver affûtés, quoi.
Ah bah oui.
Là, le gras a disparu quand ils vont arriver chez BYD en Europe.
La course à l'innovation sur les batteries et sur ce.
Parce que rappelons-le, BYD va ouvrir une usine d'assemblage en Europe. Je ne sais plus dans quel pays. Je me demande si c'est pas la Pologne.
Ouais, je crois que c'est la Pologne ou.
Voilà. Pourquoi ils font ça? Bah, pour pouvoir être éligibles aux aides européennes à l'achat d'électricité.
On va les subventionner l'industrie automobile chinoise.
C'est fou.
Non, mais si on fait ça, c'est surréaliste.
Oui. Et Tesla le fait très bien.
Ouais.
Tesla pareil. Si Tesla le fait, pourquoi pas à la Chine? Tesla est un constructeur américain. Ils ont ouvert leur usine d'assemblage à Berlin.
Oui, mais
pourquoi?
C'est là où on est roi des couillons, parce que tu verrais jamais ça aux États-Unis ni en Chine. À quel moment t'as un gouvernement qui va financer une industrie qui est pas la tienne, en fait? Tu vois, c'est pour en plus qui vient tuer ta propre industrie.
C'est la loi, monsieur.
C'est vous. Cela dit, rien n'empêche l'Union européenne de changer à petit près après la
c'est
loi.
C'est ce qu'ils veulent faire, non? Oui, mais tu vois, l'usine Tesla est déjà implantée, si tu veux.
Oui, bien sûr.
Je te rappelle que au début, c'était Renault qui était sur la voiture électrique.
Je crois que quand t'achètes une modèle 3 qui est assemblée en Europe, d'ailleurs, c'est très clair aujourd'hui, il y avait des modèles qui étaient assemblés en Chine, ils n'étaient pas éligibles justement à l'aide européenne, mais à partir du moment où c'est une voiture qui est assemblée en Europe.
Arrêter les subventions et laisser Tesla se casser le nez, baisser les prix lui-même et basta.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est.
c'est réglé.
Mais alors là, franchement, Jérôme, mais va diriger l'Europe.
Commissaire européen.
Allez,
donc les clés.
C'est parti. Demande à si tu peux accélérer un peu les lignes. Quand tu seras au pouvoir.
Moins de règlements, moins de subventions.
Si tu peux accélérer les décisions, ça serait pas mal.
Mais. Il y a plusieurs lectures en fait qui est intéressante. C'est pour le consommateur, c'est forcément bien parce que c'est des voitures qui sont meilleures, qui vont être à un meilleur prix, c'est avec clair. Un bémol quand même. Hein, c'est ce qu'on dit jamais. Et pourtant, j'aime beaucoup BYD, mais ils ont aussi pas mal de rappels. Hein, ils ont eu plus de 100 000 rappels sur des voitures qui commençaient à prendre feu. Donc c'est pas que tu vois. Donc ça, c'est pour le consommateur, c'est bien.
Après, contre très rassurant.
C'est pas super rassurant. Tu vois.
Une voiture qui prend feu.
C'est pas super rassurant.
Surtout si ça part de la boîte à gants. Je suis désolé, mais si on n'arrive pas à l'ouvrir
et qu'il y avait l'extincteur dedans, t'es mal.
C'est ce qui arrivait à Tesla.
Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que donc pour le consommateur, c'est plutôt bien. Après, quand on reprend un petit peu de hauteur et un point de vue macro, alors on n'est pas dans la superbe émission de notre ami Frédéric Simotel côté business, mais c'est important de.
On fait un gros bisou à Frédéric.
On fait un gros bisou
en vacances, qui doit en profiter véritablement dans son eau à 15 degrés à l'île de Ré. Gros bisou, Fred.
Ça, c'est le Corse qui parle.
Je referme ma parenthèse. Oh, on se taquine un petit peu là-dessus. C'est comme je sais qu'il nous écoute ou qu'il nous regarde.
Je suis team Corse plus que team.
Ça va le faire sourire, je pense.
Mais donc, si on revient à un truc un peu plus sérieux, plus macro, ce qu'est en train de faire BYD et ce que les gens ne comprennent pas, c'est assez fou. En fait, ils ont une stratégie qui est juste hégémonique, de se dire on est en train d'atomiser tous les marchés. Tu vois, tu l'as vu notamment au Brésil, parce que là tu dis je suis monté dans une BYD, ça fait des années où ils sont hyper implantés partout, tu vois, et aujourd'hui ils en sont même à racheter leur propre voiture pour justement faire augmenter les ventes. Donc tu te retrouves comme ça, je sais pas si vous avez déjà vu sur internet, il y a des cimetières de voitures neuves
qui ont été immatriculés pour faire monter en fait les prix des ventes pour se retrouver premier constructeur et vendeur mondial d'automobiles.
C'est pervers.
Voilà, c'est hyper pervers, mais tout ça étant subventionné par la Chine pour inonder le marché, tuer tous les concurrents. Aujourd'hui, quand tu es face à BYD, bah, tu peux pas jouer parce qu'en fait, ils arrivent avec des prix qui massacrent la concurrence. Bah, tu te retires et puis après, c'est là où ils vont pouvoir réaugmenter les prix. Donc, c'est une stratégie qui est déjà vue et qu'ils sont en train d'appliquer aujourd'hui.
Tu m'étonnes que Trump soit très énervé.
Mais bien sûr, ils sont pas que bêtes, hein, nos amis. Donc, mais eux l'ont vu. Nous, on l'a pas vu. Donc, on est en train de se faire laminer.
Voilà. Et pendant ce temps-là, nos constructeurs européens, français, essaient de...
Et d'ailleurs, pardon, juste complément, parce que là, on parle de BYD, mais tu parlais de Daniel Craig. Enfin, je crois que c'est dans le... Oui. On parlait de Daniel Craig tout à l'heure. Vous avez vu qu'ils sont en train d'ouvrir...
Il est géré de la marque Denza, qui est la marque haut de gamme,
la marque premium
de BYD.
Mais ce qu'ils sont en train de faire là, à des Renault, etc., ils vont le faire à Porsche, ils vont le faire à BMW, etc.
Ouais, oui, bien sûr.
Denza, c'est fait pour venir là. Ils sont en train d'ouvrir, je sais pas si vous avez vu, il y a un flagship Denza qui est sur les grands boulevards, là, qui est en train de s'ouvrir, avec Daniel Craig en grand. Et ils vont arriver sur des voitures qui sont aussi bien, voire meilleures que des Porsche et compagnie. Et avec un prix qui va être beaucoup plus intéressant. Ouais. Donc là, l'industrie automobile européenne, elle va prendre un coup.
Enfin, je suis pas spécialiste des voitures, mais Porsche et compagnie, c'est des voitures patrimoniales, quoi. Enfin,
Ah, c'est ce qu'on a dit toujours, mais ça commence
mais
à changer. Hein.
Non, mais avec la structure de l'électrique, ça change.
Non, mais regarde, on avait dit ça, et pourtant, et moi, je connais des gens plus fortunés que moi, qui à un moment avaient des Porsche, mais sont
pas. Il y a des gens plus fortunés que toi qui existent. Salim.
En tout cas,
oh mon Dieu.
Non, mais il y en a qui existent, mais que je connaissais pas.
D'accord.
Il y en a bien sûr qui ont des gens beaucoup plus fortunés que moi. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que j'ai vu des gens passer de Porsche à Tesla Model S à l'époque.
Oui, c'est vrai.
Ah oui, mais bien sûr. Dans la Silicon Valley, il y avait plein de gens qui passaient en
Parce qu'il y avait un côté hype aussi.
C'était pas que ça. Il y avait un vrai design qui était nouveau. Il y avait un vrai design.
Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, Xiaomi est en train d'arriver en Allemagne et en train de choper, je sais pas si vous avez lu cette actu qui est sur nos confrères de chez 01net. En fait, ils sont en train de piquer des ingénieurs chez Porsche et Lamborghini.
Mais bien sûr.
Xiaomi. Simplement pour essayer de monter en gamme.
C'est pas ceux qui font les carburateurs, en tout cas.
non, mais. Bah, chez Xiaomi, il n'y a pas beaucoup de carburateurs.
Non, Xiaomi, c'est pas ceux-là qui vont prendre.
C'est
ceux-là, ils vont rester sur le carreau. Mais comme nous, enfin, c'est pas pour dire, mais on cherche à les protéger à tout prix. Il y avait cette idée d'imposer le passage de supprimer le thermique en 2030, là, qui était violent, tout le monde a pleuré, etc. Mais au moins, ça aurait peut-être.
Bien sûr.
C'est fini.
Tu parles de Xiaomi, ils ont quand même. Aujourd'hui, ils sont au coude à coude face à Porsche sur des benchmarks de vitesse, en fait. Donc, si vous avez regardé le dernier SUV de Xiaomi, il est incroyable en termes de design, en termes de luxe, en termes de confort et en termes de puissance. Donc, on est en face d'un rouleau compresseur, aussi bien sur de l'entrée de gamme que du moyen de gamme, que du haut de gamme maintenant avec Denza qui arrive. Ouais, j'en parle pas mal avec des constructeurs, etc. Il y a du souci à se faire si les gens ne se réveillent pas à ce moment-là.
Pour rester dans le monde de l'automobile et toujours rester en Chine, est-ce que vous connaissez la société Cattle ? Constructeur. Alors, je ne sais pas si c'est un constructeur de voitures ou de batteries. Je crois que c'est plutôt un constructeur de batteries.
De batteries.
Voilà, qui innove, qui dépense beaucoup d'argent dans le domaine de la recherche et du développement. Alors, il y a deux actus concernant Cattle qui lèvent 5 milliards de dollars à la bourse de Hong Kong. C'est un peu le quotidien de toutes ces boîtes de tech. Ce qui est intéressant, surtout, c'est que ils ont sorti une nouvelle batterie qui a l'air complètement dingue. Qui se recharge, écoutez bien, de
3 minutes 44.
En 3 minutes
44. 3 minutes 44.
Vous êtes à 10%, c'est-à-dire vous êtes comme ça, hein, là, il faut que vous vous arrêtiez.
Ouais.
Et bien, le temps d'un plein, parce qu'on peut dire qu'un plein, c'est quoi? Allez, 3-4 minutes.
Ah oui, si tu prends un café, ça va plus vite même.
Vous rechargez votre voiture à 80%. C'est quand même dingue. Et cette innovation, elle vient pas des États-Unis, elle vient pas d'Europe, elle vient de Chine.
Et jusqu'à 98% en 6 minutes.
Voilà. Et je crois 98% dans des conditions météorologiques difficiles. C'est-à-dire que vous savez que les batteries aiment bien avoir une recharge dans des conditions confortables de température. Et là, ils arrivent à recharger la batterie à une vitesse folle, même quand il fait très très froid. C'est ça qui est dingue. Donc, c'est intéressant. Ça prouve aussi que la technologie de stockage d'énergie évolue. Aujourd'hui, on n'est plus sur du lithium-ion, hein, on est sur d'autres catégories de batteries. Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Encore une fois, c'est la Chine qui innove avec le stockage qui est un peu le, on va dire quoi, le, la locomotive de l'innovation finalement, parce que c'est là où ça évolue pas trop, le stockage d'énergie.
Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que c'est un marché qui est effectivement booming sur les voitures, avec une électrification majeure du réseau et de toutes les automobiles, tous ces constructeurs, beaucoup de compétition entre les constructeurs. Et évidemment, le temps de chargement de la batterie est un élément clé. D'ailleurs, BYD est un très très gros constructeur de batteries, mais CATL, il représente, je crois, environ 40% du marché des batteries, donc ils sont extrêmement présents. Et en fait, quand autour de nous, on discute, finalement, le frein qui reste aujourd'hui, il y en a deux. C'est un, le temps de chargement, parce que j'ai pas envie d'attendre 20 minutes, une demi-heure, etc. Et la deuxième chose, c'est l'infrastructure. Et ce que je trouve particulièrement intéressant dans l'annonce qui est là, c'est que, un, on fait sauter un verrou en disant, je vais recharger globalement en 3-4 minutes, même pas le temps d'un plein. Et je vais pouvoir le faire sur une infrastructure existante. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de changer les bornes et les prises, etc. Donc, ça, il reste quand même aujourd'hui. Hein. Donc, il y a plus ce frein du temps et je peux le faire sur l'infrastructure existante. Donc, il faut qu'elle continue à se déployer pour que on fasse pas la queue une heure pour avoir accès à une prise et qu'elle fonctionne. Mais je pense que dans le contexte dans lequel on est, il y a un timing qui est assez intéressant, c'est qu'avec le prix de l'essence, on voit que même en France, où l'électrique avait connu une petite
faiblesse, baisse de régime,
là, ça remonte,
repart, bien sûr.
On se dit,
évidemment.
Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu as une prise électrique chez toi, globalement, et que tu fais essentiellement des trajets locaux, voire un peu plus,
t'es vraiment
à passer une voiture électrique.
T'es vraiment gagnant. Hein.
Ouais, sauf que, pardon Christophe, oui, mais là tu mets le doigt sur un élément important, c'est que les chiffres et les vitesses de recharge exceptionnelles dont on parle, c'est pas du tout avec la prise électrique de la maison, parce que là tu fais...
Non, mais je parle pas de la maison. Mais la maison.
Il faut que tu dises à tes voisins,
puis tu es du
les gars, pendant un quart d'heure, vous éteignez tout à la maison, je recharge ma voiture, après c'est OK.
Enfin, moi j'ai lu que ça marche sur les bornes de recharge sur les autoroutes, ça fonctionnera et tu auras ces performances. Ah,
mais là, je suis pas sûr.
C'est une condition sine qua non.
Il faut
qu'il y ait un réseau derrière, il faut qu'il y ait
puissance. Non, mais
cinq voitures aux batteries.
Non, mais il faut surtout des puissances des centaines de kilowatts, des bornes de centaines de kilowatts. Je veux dire, pour vous balancer, je sais pas combien de dizaines de kilowatts dans une batterie, il faut envoyer de la patate quand même. Hein.
Oui, la patate. Ça coûte des patates. Non, mais c'est à la maison, c'est une 7,5, je crois.
Mais voilà.
Une nuit pour recharger toute la voiture, mais c'est la préhistoire de la voiture électrique.
Voilà, c'est-à-dire que si on est à 7 à la maison, là, ça va être 700, finalement. Ouais. C'est 100 fois plus. Donc, il faut un réseau électrique.
Ce que j'ai lu, c'est que ça pouvait se fonctionner, c'est que ces batteries... Alors, est-ce que les temps de recharge ne sont peut-être pas forcément les mêmes, etc. Mais de ce que j'ai compris, c'est que ça fonctionnait
sur les batteries.
Ça marche
aussi à la maison.
Alors, juste une précision. Ça a été annoncé au Salon de l'Automobile de Pékin, qui paraît-il est un truc de dingue. D'ailleurs, on va en parler la semaine prochaine parce que Julien Bonnet, qui est journaliste à BFM Tech, était sur place. Il viendra nous expliquer un petit peu ce qu'il a ressenti et quelles sont les innovations qu'il a pu vivre là-bas. Bien sûr, tout ça est encore en laboratoire. Hein. On ne sait pas quand ces voitures, avec cette technologie de batterie, arriveront.
Ça va arriver vite.
Ouais, je me méfie parce que ça fait des années qu'on me dit que la révolution des batteries va arriver et on voit que ça met du temps quand même.
Je suis pas d'accord avec toi là. Pourquoi je suis pas d'accord? Parce qu'en fait, t'as pas besoin d'aller chez CATL pour voir ça. Tu l'as déjà vu chez BYD. BYD, ils ont fait un saut quantique, si tu veux, sur le temps de recharge. C'est déjà impressionnant. Donc, ça va arriver vite. Et c'est rigolo qu'on se pose encore la question, alors que, tu vois, moi, je trouve que je bosse pas mal avec des groupes automobiles, si tu veux. Et j'en disais depuis longtemps, en fait, cette batterie, finalement, c'est un peu ce qui se passe avec Nvidia. Dans l'IA, c'est-à-dire qu'il y a un moment c'est le moteur de la voiture, c'est la batterie en fait, celui qui possède le pouvoir. Aujourd'hui dans l'IA, c'est Nvidia. Dans la voiture, c'est celui qu'on les batteries. Et ça, en fait, il y a plein de gens qui l'avaient pas compris. C'est pour ça qu'un BYD est parti, c'est pour ça qu'aujourd'hui CATL a levé des milliards, si tu veux, parce que c'est le nerf de la guerre en fait. Et ça, on n'est qu'au début, parce que au-delà de la puissance, moi, ce que je vois, c'est quand tu reprends un peu de hauteur, c'est tu déverrouilles l'ensemble du marché. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les gens qui n'avaient pas fait cette transition, c'était de se dire, mais qu'est-ce qui se passe si moi, je fais mon Paris-Marseille? Est-ce qu'il faut combien de fois il faut que je recharge? Si je recharge, ça va me prendre du temps, je n'ai pas le temps, etc. Là, à partir du moment où tu te dis, en moins de 4 minutes, j'ai fait le plein, Bah, tu te dis, j'ai plus de soucis.
Certes.
Donc ça veut
la
dire.
Condition,
mais ah non, mais attention.
Mais à oui, condition mais, oui, que les infrastructures.
C'est pour ça, venir. Parce que. Mais justement, si je termine là-dessus, et moi, je trouve que.
C'est pas avec la borne autolib que tu pourras recharger.
Bien sûr, mais tu vois, c'est là où.
Quoi que ça existe.
Je voyais un autre reportage l'autre jour sur des étudiants qui interrogeaient Patrick Pouyanné, donc le grand patron de Total, et il le taclait sur l'industrie fossile. Et il disait, mais vous êtes gentil, mais. Vous en avez encore besoin, mais par contre, on prévoit cette transition énergétique. Et c'est ce qu'a très bien fait un Total Energy. C'est aujourd'hui, tu vois, les stations, vous avez vu, elles sont en train de transitionner. Qu'ils ont compris que de plus en plus, il va y avoir de plus en plus de demandes. À partir du moment où dans la tête des gens, ils vont se dire, en fait, je peux avoir une voiture électrique, j'ai plus ce lock qui me fait dire, tiens, j'ai quand même peur de tomber en rade, il va y avoir de plus en plus de stations électriques. Et donc, ça veut dire que derrière, il va falloir produire et produire encore plus d'électricité. Et c'est là où est la vraie bataille, en fait. Donc, on est vraiment dans cette bataille d'infrastructure, aussi bien au niveau de l'IA qu'au niveau de l'électrique. Mmh. Et ça change, en fait, on est dans une souveraineté technologique. Et tu comprends bien que la Chine, elle l'a compris depuis longtemps. Hein. C'est dans leur plan quinquennal à chaque fois. Ils vont sur ces industries-là. Et on a parlé de la robotique.
Tu parles de l'énergie ?
Non, en fait.
Parce que sur les voitures, on est en train de la perdre, la souveraineté.
Ah, bien sûr, mais regarde, si tu regardes le plan, mais qu'ils annoncent, et le dernier, il était l'année dernière, qu'ils font tous les 5 ans en Chine, il y a la robotique, il y a l'IA, il y a l'automobile électrique, et bien sûr, il y a l'énergie.
Ouais.
Et dedans, ils ont développé énormément le solaire. Et quand tu vas notamment à Shenzhen, tu as. La moitié des voitures neuves, c'est de l'électrique, en fait.
Ouais, c'est clair.
Donc, aujourd'hui, tu vois, c'est tous ces trucs-là où on est passé à côté, alors pourtant, on avait les données pour comprendre ce qui est en train de s'évoluer. Et il y a encore beaucoup trop de dirigeants, que ce soit d'entreprises ou de gouvernements, qui ne voient pas ce shift, en fait. Et c'est ça qui est paniquant en Europe et en France.
Il y a des réticences, il y a des peurs, il y a du social à gérer.
Parce ouais, que mais c'est si pas que du social.
Si tu as des filières qui disparaissent comme ça, l'État ne peut pas dire que c'est terminé. On va tout mettre entre les mains des startups, c'est elles qui vont faire des voitures maintenant.
Je dis souvent qu'en Europe et en France, il y a beaucoup d'arrogance et cette arrogance nous amène à l'ignorance. Donc voilà.
En tout cas, on souhaite bonne chance et bon courage à nos constructeurs français qui vont devoir avoir très bientôt des concurrents très féroces.
Il faut que tu les invites, qu'ils viennent. Se justifier même.
Non, mais
après, il y a des efforts qui sont faits. Aussi. On terminera là-dessus, mais par exemple, prenez la dernière Twingo électrique qui est vraiment à un prix très, très, très intéressant. Ouais. Je crois qu'elle est à 13 000 euros si vous enlevez les aides. 13 000 euros pour un véhicule électrique, c'est une petite révolution quand même. Hein. Ouais. Alors bon, vous n'avez pas évidemment énormément d'autonomie, mais bon, c'est une petite citadine. Il nous reste 4 minutes, j'aimerais qu'on évoque un autre sujet lié à l'IA qui n'a strictement rien à voir. Est-ce que vous êtes fan de Taylor Swift ? Est-ce que vous écoutez du Taylor Swift ?
Moi, je suis fan du sens du business de Taylor Swift.
Incroyable !
Moi aussi.
Cette femme est incroyable. Bon, après, musicalement, on aime ou on n'aime pas.
Si tu veux monter un business, faut s'associer à Taylor Swift.
C'est clair, ça. D'ailleurs, elle est juste à côté de toi.
Voilà,
c'était ta nouvelle fiancée, Jérôme, Taylor Swift. Et pourquoi on parle de Taylor Swift dans Tech & Co ? Parce que Taylor Swift a soumis, écoutez, bien parce que c'est hyper intéressant, 2 empreintes sonores de sa voix et une photo d'elle à l'United States Patent and Trademark Office américain. On ne sait pas pourquoi, elle n'a pas trop communiqué là-dessus, mais il faut savoir que chat échaudé craint l'eau froide parce que Taylor Swift avait été la cible de fake news à l'époque de la promotion, en tout cas de la campagne électorale de Donald Trump, où en fait une IA lui avait fait dire qu'elle soutenait Donald Trump, alors que visiblement elle est pas totalement Trump, si vous voulez, et c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a ça, et je trouve intéressante que l'une des stars les plus bankable du monde se dise, attendez les gars, j'en ai marre de ces chansons qui sont générées par l'IA qui ressemblent à du Taylor Swift, je vais en fait déposer ma voix, en fait. Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce que ça va être un peu le quotidien, finalement, de tous les grands artistes, bientôt, qui vont être obligés de faire pareil ? Il va falloir vite donner votre avis, parce qu'il nous reste peu de temps.
Alors, moi, j'ai un super avis, mais vas-y.
Salim, vas-y.
C'est rigolo, parce que j'avais, il n'y a pas longtemps, une conversation avec les gens de la SACEM, ici. Et je leur disais, il faut complètement revisiter le droit d'auteur. Et c'est exactement ce qui est fait là. Mais avant Taylor Swift, je ne sais pas si vous avez suivi, mais le TikToker Khaby Lameh, il avait déjà vendu son identité numérique pour pouvoir être reproduit en avatar.
Oui, c'est vrai.
Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se jouer ? C'est.
Après, c'est pas un chanteur. C'est un peu différent, si tu veux.
Si, c'est pareil. C'est qu'aujourd'hui, tu peux reproduire son image. Donc là, tu peux reproduire son image, sa voix. En fait, ce que je joue aujourd'hui, c'est je ne dépose plus de la propriété intellectuelle parce que j'ai fait une chanson ou j'ai fait un. comme ça, comme Kaby Lamé, mais je dépose mon identité numérique pour ne pas être cloné. Ce qu'avait bien compris d'ailleurs Sam Altman d'OpenAI, c'est pour ça qu'il avait sorti son projet Orb avec la reconnaissance de l'iris pour pouvoir dire qui est humain et qui est avatar. Mmh. Donc elle est bas dans le sens de l'histoire et elle a bien compris où va l'histoire.
Oui. Alors c'est pour ne pas être cloné, ou plus exactement pour ne pas être cloné en dehors de son contrôle, pour éventuellement en tirer même certains bénéfices. Si vous écoutez Monde Numérique samedi, vous pourrez entendre.
Nous l'écouterons.
Voilà. Dans le domaine du cinéma, en Chine, il y a une agence qui vient d'ouvrir et qui a signé avec une centaine d'acteurs, des acteurs réels, pour en faire des avatars qui vont ensuite pouvoir jouer, si on peut appeler ça jouer, en tout cas être utilisés dans des productions audiovisuelles générées par intelligence artificielle. Et donc, ils toucheront de l'argent, ils vendent juste leur image.
Alors qu'ils n'ont rien fait.
Ils ont licencié.
C'est leur visage, leur voix qui va être utilisée par l'IA.
Mais c'est ce que je te disais. Okay. Le TikToker Kaby Lamé, il a licencié ça pour 1 milliard.
Ouais, c'est clair.
1 milliard.
C'est clair.
Je ne pense pas que ça fera la fortune de Taylor Swift, mais ça fera la fortune des avocats, parce qu'il n'y a pas encore de cadre juridique.
Ouais, exactement.
Et je pense qu'on se prépare un long chemin.
Mais je trouve que c'est intéressant cette exploration, parce qu'en plus, elle est hyper bankable, elle est hyper médiatique. Hein. C'est l'une des. Je crois que c'est la chanteuse au monde qui gagne le plus d'argent.
Oui,
hein.
De loin. Oui, mais
sa fortune est colossale.
Comme on est sur BFM Business, moi j'invite tous les responsables, dirigeants d'entreprises et même politiques à commencer à réfléchir à ça. Parce que si une artiste le fait, c'est bien qu'il y a bien une raison. C'est-à-dire qu'à un moment, quelle est la voix de l'entreprise? C'est le dirigeant. Est-ce qu'à un moment, on permet à des gens de faire une fausse vidéo de ce dirigeant qui va annoncer quelque chose? Il y a pas mal de choses, de changements en termes de droits et de...
Ouais, mais quand on n'est plus dans le domaine artistique,
comment tu contredis un deepfake
malveillante derrière?
Bah d'accord, mais ça va être compliqué. On est en train de vraiment de réinventer.
Mais le seul bénéfice de déposer sa voix, c'est que tu peux faire des recours en justice.
Non, mais bien sûr
qu'il y a besoin d'un nouveau cadre juridique, c'est sûr.
Mais voilà, il faut qu'on change le cadre juridique complètement.
Tout ça est assez flou.
Il y avait une série Netflix qui était super intéressant, vous avez pas vu, avec je sais plus quelle comédienne très 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 connue, où elle se fait voler son image comme ça, et en fait elle se la fait pas voler, elle l'a signée, sauf que c'était écrit en tout petit
elle avait pas vu le contrat,
elle avait pas vu elle avait signé pour que on puisse générer des personnages.
Tiens, puisque tu parles de comédien, il faut savoir que Matthew McConaughey, qui est aussi un comédien connu, a lui signé pareil, enfin a verrouillé un petit peu son identité. C'était en janvier dernier. Eh bien voilà, ça sera le mot de la fin.
C'était Salma Hayek.
D'accord. En effet. Et je crois que c'était cette grande série sur Netflix, toujours en anticipation, qui est hyper connue.
Black Mirror.
Voilà, c'était Black Mirror. Merci beaucoup, Salim. Merci Christophe Holnet.
Merci
Salim Nassur et merci à Jérôme Colombin. On écoutera avec beaucoup d'attention ton podcast Monde Numérique, mon cher Jérôme. Et vous restez avec nous. Tech & Co, la quotidienne, revient dans un instant.
Tech & Co, la quotidienne. Tech Flash.
20h32, c'est Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Il est temps de retrouver le Tech Flash, un condensé de l'actu tech du jour. C'est avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa.
Bonsoir François et bonsoir à tous. Et à la une, l'ambiance est tendue du côté de chez OpenAI. L'entreprise aurait raté ses objectifs de performance, que ce soit en chiffre d'affaires ou en nombre d'utilisateurs. En interne, la directrice financière s'inquiète. Si les bénéfices ne redécollent pas, OpenAI pourrait avoir du mal à honorer ses futurs contrats, mais aussi à financer ses énormes besoins en puissance de calcul. Toujours dans l'IA, Google a signé un partenariat avec l'armée américaine. Le Pentagone souhaite utiliser son IA pour des missions classifiées. Une décision qui fait grincer des dents en interne dans une lettre ouverte. 600 salariés de l'entreprise, dont plusieurs cadres dirigeants, demandent à leur PDG, Sundar Pichai, de renoncer à ce contrat.
Et puis après le veto de Pékin hier, Meta renonce au rachat de la start-up Manus.
Et oui, Mark Zuckerberg ne sortira pas les armes face à la Chine et abandonne définitivement cette transaction à 2 milliards de dollars. Pas de poursuite judiciaire ni de manœuvre politique. Manus et Meta ont tous deux déclaré qu'il comptait sagement respecter et se conformer à la décision. Les salariés de Manus qui avaient déjà intégré la division IA de Meta vont donc refaire leur carton. En Europe, Bruxelles va utiliser le DMA pour forcer Google à ouvrir Android aux IA concurrentes. Concrètement, la Commission estime que le système d'exploitation devrait permettre aux utilisateurs de choisir librement leur modèle d'IA et non de se voir imposer Google Gemini par défaut. Une mesure que le géant américain juge dangereuse, mais que Bruxelles estime indispensable pour rééquilibrer le marché. Et enfin, au Japon, la compagnie aérienne nationale va tester dès le mois de mai des robots humanoïdes dans un aéroport de Tokyo. Ces appareils de la marque Unitri seront en charge des bagages, du fret et du nettoyage des cabines. L'objectif ici, faire face à la hausse du tourisme et à la pénurie de main-d'œuvre dont souffre le pays. En revanche, certaines tâches essentielles comme la sécurité continueront, elles, d'être assurées par des humains. Et pour finir, je vous donne rendez-vous sur le site de BFM Business pour Air et Défense, votre émission dédiée à l'aéronautique, au spatial et à la défense en compagnie de Jean-Baptiste Huette. Et cette semaine, parmi les invités, le général Alexis Rougier, qui est en charge de la très haute altitude pour l'armée de l'air et de l'espace. Il revient notamment sur l'affaire des ballons chinois. Souvenez-vous, c'était en 2023. Ils étaient accusés d'espionnage pour le compte de Pékin. On écoute un extrait.
L'affaire du ballon chinois ou des ballons chinois sont des ballons qui ont traversé le Pacifique, qui ont traversé l'Alaska, l'intégralité du Canada, le territoire américain, avant d'être abattus en 2023 par des F-22 américains. Ce que l'on sait, c'est que côté chinois, et c'est pas une surprise, eh bien, ils sont très actifs dans le domaine. Encore aujourd'hui. De la même manière, sans rentrer trop dans le détail, sachez que de nombreux ballons, en particulier américains, volent toute l'année. Et ce sont en fait, en réalité, la succession d'une très belle entreprise qui était Google Loon et qui avait imaginé pouvoir créer un réseau de télécommunications à base de plusieurs dizaines de ballons en même temps. Toute cette initiative perdure et fait l'objet d'un certain nombre de vols. Voilà, je pourrais pas rentrer plus dans le détail, mais sachez que effectivement, plusieurs dizaines de ballons volent régulièrement dans ce domaine-là.
Voilà, et pour retrouver cette émission passionnante, eh bien n'hésitez pas à aller sur l'appli BFM Business dans l'e-replay, vous la retrouverez. Il est 20h37, il est temps maintenant de parler recherche sur le web avec un nouvel entrant français qui plus est, on en parle tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Et on va découvrir ensemble Hibou avec Sylvain Perronnet, cofondateur et président de Hibou. Bonsoir Sylvain.
Bonsoir.
Eh bien dites-moi, quel courage se lancer dans un moteur de recherche. Un moteur de recherche conversationnel, hein, c'est ce que vous expliquez. Ça n'y est pas encore, hein, vous lancez en fait Hibou pas à pas. On va rentrer dans les détails, mais juste un mot quand même sur votre pédigrée, hein, vous êtes un spécialiste des algorithmes de recherche depuis plus de 20 ans. Vous avez été professeur des universités à l'université de Caen Normandie avant de rejoindre Quant comme Chief Science Officer. Pas super expérience, Quant, c'est. Enfin, je veux dire, bon.
J'en suis parti en 2019.
Voilà. Parce que Quant, rappelons-le, hein, c'était, ça voulait être l'alternative justement européenne à Google. Et on sait que voilà, Quant s'est fracassé pour plein de raisons qu'on va pas détailler là maintenant. Lancer un moteur de recherche en 2026, c'est pourquoi ? Et comment vous vous êtes dit, bah tiens, je vais essayer de concurrencer un petit peu tout ce qui se fait aujourd'hui.
Alors, il y a plein de raisons, mais d'abord, la première chose, c'est que ça fait des années qu'on voulait continuer à travailler là-dessus avec l'équipe des cofondateurs de Hibou. Et on a commencé à travailler en fait un petit peu en mode invisible sur un index depuis 2019, un index web propriétaire, indépendant, donc souverain. Il s'avère qu'au fur et à mesure des années, on a pu bien travailler. Et que, en ce moment, en fait, il y a un momentum pour lancer un moteur de recherche. La géopolitique est en ce qu'elle est, la technologie est en ce qu'elle est. Il y a une demande pour un moteur de recherche indépendant souverain. Il se trouve que nous, on est en train de le fabriquer. Il y a une réceptivité, que ce soit dans le grand public, dans les médias, chez les élus, qui est très très forte pour ça. Et donc on s'est dit en juin dernier qu'on allait se lancer. Et on s'est lancé et on s'aperçoit qu'on arrive très très bien à développer le moteur et que la roadmap qu'on a, qui est très ambitieuse, hein, qui finit fin 2026 pour la livraison du moteur, sera à coup sûr tenue, enfin à coup sûr selon nous bien sûr.
L'idée c'est quoi? C'est de concurrencer Google, c'est de concurrencer la recherche via les LLM, ChatGPT Search. D'ailleurs, ils le font tous aujourd'hui, hein, Gemini, Claude, etc. Parce que on voit que la recherche évolue aussi avec l'IA.
Oui. Alors l'objectif, c'est pas de concurrencer, c'est de fournir une alternative. Nous, on est une équipe de vieux du web, j'ai envie de dire. On est là depuis les débuts et on s'est rendu compte que le web tel qu'il est aujourd'hui n'est pas tout à fait celui qu'on envisageait à l'époque, au début du web. Mm-hmm. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire un nouveau type de moteur de recherche. Ah, il est conversationnel, il a un index web, hein, comme tous les moteurs, mais par contre, qui présente plus la diversité des informations possible sur un sujet quand il y a une controverse, qui soit plus transparent d'un point de vue algorithmique, donc que les gens puissent savoir pourquoi ils sont mis en avant ou pas mis en avant, et aussi qui préserve les éditeurs, parce qu'aujourd'hui les moteurs conversationnels en fait ont tendance à envoyer très peu de trafic, hein, sur les sites web, et c'est un problème parce que les sites web c'est eux qui fournissent la matière dont on a besoin pour répondre. Et
on explique.
On va la mettre en avant.
On explique comment ça marche. Par exemple, vous cherchez, je sais pas moi, une info sur une actualité. Auparavant, et via Google, vous cliquez sur un lien, ça vous emmène sur ce site d'actualité. Ça peut être BFM Tech, BFM Business, BFM TV.
Exactement.
Aujourd'hui, avec les moteurs de recherche conversationnels, vous avez une réponse qui est...
une synthèse de l'information.
Touchée directement sur le site, ce qui fait que... en fait, le lecteur n'a même plus besoin d'aller visiter le site en question.
Ouais, il n'est pas du tout incité. Ça dira, François Sorel a dit que dans son émission, et hop, ça s'arrêtera là. Nous, ce qu'on veut, c'est dire, bah voilà, telle personne a dit telle chose, telle autre personne a dit telle chose. Si vous allez sur ce site-là, vous découvrirez le discours de cette personne. Sur cet autre site, le discours de cette autre personne. Et ce sera à l'internaute qui a fait la recherche de se faire sa propre opinion derrière.
Donc, vous êtes un peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire
exactement.
Que vous allez donner une réponse, oui. Mais pour l'argumenter... on pourra cliquer. Ce que fait d'ailleurs Google en toute transparence. Hein.
Tout à fait.
Il vous donne en fait un résumé de l'information que vous voulez, mais malgré tout, très facilement, on peut cliquer sur les liens qui vous emmènent à cette information.
Exactement. Le problème de Google pour nous, hein, c'est d'abord que c'est un acteur américain, donc il y a pas une problématique de souveraineté, et qu'en plus, il n'y a pas de grande transparence algorithmique. Donc des fois, on ne sait pas pourquoi on est mis en avant ou on n'est pas mis en avant.
Le problème, c'est que Google, c'est un excellent moteur de recherche. Tous les services de Google sont excellents. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Google, tout est vraiment de très haut niveau. Est-ce que, sincèrement, Hibou, alors vous avez du talent et je n'en doute pas une seule seconde, comment vous pouvez vous dire que vous pouvez arriver à ce niveau de qualité?
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a plusieurs manières de répondre à une question. Donc, ce qu'on pense, c'est qu'on peut avoir une qualité de réponse qui est équivalente et qui va présenter de manière différente l'information. Par ailleurs, il y a aussi cette problématique souveraine. Nous, ce qu'on veut, c'est fournir un moteur de recherche grand public, mais aussi un index web qui serait disponible pour tout le monde, y compris les opérateurs IA qui seraient européens, par exemple. Et il y a une double problématique qu'on peut remplir. Ce qu'on veut, c'est un niveau de qualité équivalent dans notre écosystème, en fait. Voilà. On vise à être équivalent.
D'accord. Alors, évidemment, le contexte géopolitique fait que vous êtes un peu plus sur le devant de la scène. Ça doit vous mettre une pression phénoménale, parce que mine de rien... leur tourne. On ne sait pas combien de temps toute cette pagaille va durer, finalement. Et il faudrait que, même si on sait que rien ne sera plus jamais comme avant, votre moteur de recherche n'est pas prêt. Si aujourd'hui, je tape Hibou, et vous pouvez taper, hein, hibou.io, vous arrivez en fait à une bêta qui vous permet de découvrir Hibou Explorer, qui est un peu un Google Actu, j'ai envie de dire, hein, où vous faites une sélection d'actualités dans divers domaines qui sont la politique, l'économie, l'international, etc. On peut chercher dans ces contenus tirés d'informations. On retrouve d'ailleurs BFM Business, si j'ai vu.
Tout à fait. Oui, alors pour l'instant, c'est la seule verticale qui est mise en place. C'est aussi une question de crédibilité pour nous, de montrer qu'on peut faire des premiers algorithmes et qu'un public peut être intéressé. Notre roadmap nous amène... entre l'été et décembre 2026 pour finaliser un moteur grand public qui sera exposé et une API pour les professionnels un petit peu plus tôt. Donc effectivement, il y a un horizon qui est assez court. On essaye d'avoir une plus grande vélocité. Alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait une levée de fonds très récemment,
oui.
qui a été fructueuse.
Vous avez le soutien de Xavier Niel.
De Xavier Niel, exactement, hein, qui adhère au projet, qui adhère à cette vision d'un moteur de recherche souverain et qui adhère au fait que l'équipe a probablement tout ce qu'il faut pour réussir le pari.
Ça coûte cher de développer tout ça?
Ça coûte pas très cher.
Comment vous faites en fait ? Vous avez les mêmes recettes que Google ? Vous avez des robots qui scrollent l'internet mondial de manière perpétuelle ?
Tout à fait. Donc on a ce qu'on appelle des crawlers qui crawlent le web. On a commencé en 2019 à travailler sur notre crawler. Ça fait déjà 6 ans. Et aujourd'hui, on a un crawler qui se positionne, alors selon Cloudflare, qui a un radar spécialisé sur les bots sur le web, entre la 15e et la 30e place mondiale sur les bots, généralement, avec un coût opérationnel qui est généralement 8 fois plus bas que celui de nos compétiteurs, parce qu'on a trouvé les bons algos, la bonne tech pour faire ça. Donc on a un crawler très efficace, mais après le reste, c'est un moteur de recherche standard. On va indexer le web, on va avoir un système de classement, ça utilise beaucoup massivement l'IA. La petite spécificité qu'on a, et c'est pour ça qu'on pense que les choses sont possibles à moindre coût pour nous, c'est qu'on utilise les LLM, donc les modèles de langue, pour simuler le comportement des êtres humains, ce qui nous évite d'avoir à capter de la data utilisateur pour faire un bon moteur. Donc c'est l'IA qui nous aide à comprendre l'humain pour fabriquer un meilleur moteur.
D'accord, donc il sera, on va dire, très efficace, parce que il aura le même langage que nous, grâce à l'IA.
Exactement.
Combien de temps faut-il pour crawler le web, en fait ?
Ah, le web est infini, donc...
C'est une question intéressante, je trouve, combien de temps il vous faut pour avoir une photographie assez précise quand même de la monstruosité des données du web.
Nous, on crawle de 2 à 4 milliards de pages web par jour actuellement, et on peut estimer que sur 6 mois à 1 an, on a une vision qui est pas exhaustive, bien sûr, mais qui est vraiment très très précise de ce qui se passe sur le web, avec tous les plus gros sites, toutes les informations, etc. Avec plus, on peut faire marginalement mieux, mais pas beaucoup mieux, en fait.
Quand on voit Google, aujourd'hui, c'est un moteur de recherche, mais c'est aussi une IA, c'est aussi un mail, du cloud, plein de services. Est-ce que votre stratégie, c'est un peu pareil ? C'est-à-dire que vous allez commencer par le web, et après proposer, pourquoi pas, un mail, du stockage, de l'IA, etc., etc. L'idée, c'est d'avoir une suite, aussi ?
On ne peut jamais savoir de quoi l'avenir sera fait, mais nous, ce qu'on vise, c'est l'information, le search, le web et les images d'abord. Peut-être quelques petites choses périphériques, mais pour le reste, on vise plutôt une stratégie d'écosystème en s'appuyant sur des partenariats avec nos confrères français, européens, qui font des fois du très très bon travail déjà sur certains domaines, et on ne va pas réinventer la roue, ça existe. On va essayer de nouer des partenariats, que ce soit les fabricants de LLM français ou européens, que ce soit les opérateurs de mail, etc.
Question un petit peu vache, j'ai envie de dire. Demain, vous êtes prêt, okay, votre moteur de recherche est prêt. Comment vous allez le promouvoir, en fait ? Et comment vous allez vivre et sortir de ce truc-là ? Il y a un modèle économique aussi.
Alors, il y a un modèle économique. Peut-être je vais commencer par le modèle économique.
Allez, c'est important.
On a un double modèle économique. Il y a le grand standard, la publicité. On va la faire différemment d'un Google, par exemple.
Pas de liens sponsorisés ?
Alors, il y aura des liens sponsorisés, mais les liens dépendront du contenu de la réponse qui est affichée à l'internaute. Donc, ils viendront en supplément de la réponse et pas se substituer à la réponse. Donc, les gens auront plutôt un intérêt à d'abord aller lire la réponse, puis ensuite à cliquer sur la pub éventuellement. Et puis, il y a un autre modèle économique qui est lié à l'API, fournir l'index web comme infrastructure de recherche à des tiers. Ça peut être des Mistral, des Lighton. En France, il y a plein d'opérateurs IA, par exemple, qui ont des besoins d'index web.
Okay.
Voilà. Et ça, c'est notre deuxième branche pour le modèle économique. Après, comment est-ce qu'on va faire connaître le moteur ? Ça, c'est un autre problème. Alors, c'est un problème qui est secondaire pour nous pour l'instant, parce qu'on a d'abord été financé pour réaliser le moteur. Et donc, il faudra probablement qu'on trouve des fonds supplémentaires pour ça.
Parce que rappelons que Bing, qui est quand même le moteur de Microsoft, n'a jamais décollé véritablement, et je peux imaginer que ça coûtait quand même une blinde à Microsoft d'essayer de promouvoir ce moteur de recherche.
Tout à fait. Et en fait, la promotion qu'on va faire, elle sera assez standard, donc il faut qu'on trouve des relais d'influence. Hein, Google.
Est-ce que vous voulez par exemple une aide du gouvernement ? Est-ce que une commande publique vous intéresse ? Le fait que, à un moment, il y avait Quant comme moteur de recherche pour les fonctionnaires, les pauvres d'ailleurs. J'imagine un peu la galère que ça devait être d'avoir comme moteur de recherche.
Je ne ferai pas de commentaire là-dessus.
Non, mais on rigole entre nous.
Mais par contre, effectivement, la commande publique, moi j'y crois si on a un bon produit, en fait. Il n'y a pas de honte à être mis en avant.
Mais vous seriez pas contre,
bien sûr, si notre produit le mérite, sans problème, bien sûr. Mais ce qu'il nous faut, c'est trouver surtout des relais d'influence.
Voilà. On se donne rendez-vous dans combien de temps alors pour l'arrivée du moteur de recherche ?
Entre octobre et décembre 2026.
Vous viendrez sur le plateau Tech & Co nous annoncer tout ça ?
Avec plaisir.
Avec beaucoup de plaisir. Merci Sylvain Perronnet. Saluons cette initiative donc de Hibou. Vous en êtes le cofondateur et président. 20h48, Tech & Co, la quotidienne. Direction tout de suite la rédaction du site BFM Tech avec Kesso Diallo qui nous rejoint.
Tech & Co, la quotidienne. La chronique BFM Tech.
Bonsoir Kesso.
Bonsoir.
Alors ce soir, tu vas nous parler de Tinder, qui, écoutez bien, demande à ses utilisateurs de scanner leur œil pour prouver leur humanité.
Oui, c'est une demande...
Il y a de l'humanité sur Tinder.
C'est une bonne question, je ne sais pas trop. On en reparlera
sans
après.
Doute, sans doute. Ouais.
C'est une demande quand même qui est étrange, mais elle est bien réelle. Tinder, en fait, s'est associé au projet World de Sam Altman, qui est, on le rappelle, le patron d'OpenAI, pour proposer à ses utilisateurs de scanner leur œil. L'objectif, comme tu l'as dit, c'est de prouver qu'ils sont bien humains. Alors, comment ça fonctionne? Si vous ne connaissez pas le projet World, c'est en fait une sphère métallique appelée Orb qui scanne les globes oculaires. À partir de là, l'utilisateur reçoit un code biométrique qui est unique et chiffré. C'est la preuve qu'il est bien humain. Et cette preuve d'humanité, elle est stockée dans une application pour qu'il puisse l'utiliser auprès de services tiers. Dans le cas présent, c'est Tinder. Et ça, il peut le faire sans avoir à révéler son identité civile.
Alors, la question que tout le monde se pose, Kesso, pourquoi Tinder demande ça à ses utilisateurs?
Bien, toi qui posais la question au début, pour Tinder, en fait, c'est un moyen de lutter contre les faux profils parce que entre les arnaqueurs sentimentaux, les bots ou les comptes automatisés, ils sont nombreux sur les sites de rencontres. Le problème, c'est qu'ils sont de plus en plus difficiles à repérer à cause de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a des outils qui sont capables d'imiter la voix, le visage et même le style de conversation. Donc, ces impostures, elles sont plus crédibles que jamais. Tinder compte donc sur cette preuve d'humanité pour rassurer les utilisateurs, mais aussi limiter ces manipulations. Et il offre même une récompense aux utilisateurs qui seront prêts à scanner leur œil. Ce seront 5 boosts qu'ils recevront gratuitement pour augmenter temporairement la visibilité de leur profil sur l'application. Alors que d'ordinaire, il faut quand même payer $10 pour avoir un de ces boosts. Mais il y a quand même un coût à ce scan de l'œil, parce que c'est la vie privée, parce que ce système, il repose sur le scan de l'iris, qui est, on le rappelle, considéré comme encore plus unique qu'une empreinte digitale, et la numérisation de ces informations biométriques. Donc, je ne sais pas pour toi, mais je trouve que $50 en échange de ces données personnelles, ben, ce n'est pas beaucoup.
Ouais, mais après, ça peut servir peut-être d'identification, tu sais, pour tous ces sites qui doivent être réservés pour les adultes, qui a été un gros sujet de débat et d'actualité il y a quelques mois de cela. Hein. Site pour adultes, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a d'autres sites, évidemment, qui sont réservés à des personnes majeures. Merci beaucoup, Kesso. Et si vous voulez en savoir plus, bien évidemment, direction le site BFM Tech. À demain. Et il est 20h51. On va maintenant s'intéresser à la sécurité des personnes avec Verisure et mon invité.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Et Alex Froment-Curti nous a rejoint. Bonsoir Alex.
Bonsoir François.
Merci d'être là. Vous êtes le directeur général de Verisure France. Est-il encore nécessaire de présenter Verisure? Vous êtes le leader européen de la sécurité du domicile par télésurveillance. On le sait, hein, vous sécurisez je ne sais pas combien d'habitations.
Alors en France, on a la chance de sécuriser un million de foyers partout sur le territoire. Donc 1 million de foyers, c'est peut-être 3-4 millions de Français qui nous font confiance tous les jours pour les sécuriser dans leur domicile, contre les risques d'intrusion, d'accidents domestiques. Et on a fait un constat. C'est que 72% d'entre eux nous disent « En fait, je me sens en insécurité aussi en dehors du domicile, dans des situations du quotidien, finalement. Ça peut être dans un bus, en allant au bureau, etc. » Et donc, on veut y apporter une réponse pour pouvoir protéger tous les Français en dehors du domicile, 24 heures sur 24.
C'est intéressant, hein, c'est un pivot pour vous, parce que finalement, vous sortez de la sécurité, je dirais, de l'alarme premium, parce que l'idée aussi de Verisure, rappelons-le, on ne l'a pas dit, c'est que pour tous ceux qui ne connaîtraient pas, si par exemple, il y a une intrusion dans votre maison parce que vous n'êtes pas là, il y a des systèmes qui font qu'après, il y a des gardiens qui, s'il n'y a pas de vérification, vont pouvoir constater effectivement s'il y a effraction ou pas. Hein.
Oui, Verisure, c'est dissuader contre l'intrusion, c'est détecter tous les problèmes qu'il peut avoir dans une habitation, c'est valider qu'en effet, il y a un cas avéré et faire intervenir le plus vite possible les forces de l'ordre. Et tout notre combat dans le business actuel, c'est cette rapidité d'efficacité.
Avec énormément de technologies aussi, hein, des capteurs, des caméras, de plus en plus sophistiquées, etc. Parce que le but du jeu, c'est d'éliminer le plus possible les faux positifs. C'est ça, hein, l'idée.
Oui, mais finalement, vous dites c'est quelque chose de nouveau qu'on va faire avec Verisure Guardian. Pas tellement, c'est notre ADN, parce que fondamentalement, nous sommes des personnes qui protégeons les personnes. Donc c'est la protection de l'individu, des foyers, de ceux qu'on aime. Mais ceux qu'on aime, c'est pas juste dans les foyers, c'est où qu'ils soient tout le temps. Et donc ça va être ça, notre extension naturelle finalement.
Alors justement, parlez-nous de ce nouveau service, ce service d'assistance aux personnes qui sont hors de chez elles. Comment ça marche?
Verisure Guardian, c'est une application. C'est une application avec 3 fonctionnalités majeures. La première, c'est un bouton SOS qu'on peut déclencher à tout moment lorsqu'on n'est pas dans une situation pas à l'aise. Deuxièmement,
donc j'ai mon téléphone, je lance l'appli.
Exactement, vous avez un bouton SOS, et la particularité de ce bouton SOS, c'est que des opérateurs de Verisure Assistance vont prendre ce signal en 7-6 secondes tous les jours, 24 heures sur 24, pour vous porter assistance et potentiellement faire intervenir le SAMU, les forces de l'ordre, etc.
Donc, mais qu'est-ce qui se passe quand j'appuie ce bouton?
Automatiquement, sur ce bouton, tout de suite, on vous sera en contact avec un agent Verisure qui va s'occuper de vous, de comprendre la situation, de vous géolocaliser pour savoir où vous êtes, d'écouter votre besoin, votre problème, et si besoin, faire intervenir les forces de l'ordre, si besoin, faire intervenir les pompiers, le SAMU en cas de nécessité. Ça, c'est le côté SOS.
Mais le 911 fait ça, non? Enfin, aujourd'hui, alors, j'ai un problème, une urgence, quoi que ce soit.
En fait, ce qu'on constate, nous, chez Verisure, c'est que le million de foyers qui nous font confiance utilisent beaucoup leur bouton SOS à l'intérieur du domicile pour des situations d'accidents domestiques. Et pourquoi? C'est des situations extrêmement stressantes, en fait. Un accident domestique, ça peut être un enfant qui tombe, qui se fait très mal, ça peut être une personne âgée qui a des problèmes de santé, etc. C'est des moments où finalement, on voit que les Français ont besoin de cet accompagnement d'un ange gardien qui va gérer la situation. On est dans une situation de crise.
Donc ça va bien au-delà du cambriolage, qui était, la surveillance de la maison, qui était au départ, en fait, la philosophie de Verisure.
Oui, mais
c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes âgées qui font appel à vous parce qu'ils sont dans un environnement Verisure, qui ont des malaises ou des problèmes, appuient sur un bouton. C'est
tout
ça.
C'est une situation très 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 commune que l'on gère tous les jours, 24 heures sur 24. Donc c'est ce qu'on appelle les accidents domestiques.
Mais finalement, c'est une option supplémentaire qu'on souscrit.
Pas du tout. Ça fait partie de notre offre pour tout le monde, pour 1 million de foyers français. Et en fait, c'est de plus en plus, on voit une tendance dans la société et donc chez nos protégés de ce besoin d'accompagnement dans des situations critiques. Et donc à la maison, mais on veut l'étendre à l'extérieur.
Donc ce bouton SOS sur le téléphone, si je suis en situation de danger.
Exactement.
Si je ne dis rien, qu'est-ce qui se passe? J'appuie sur ce bouton, je ne peux pas parler parce qu'il y a du monde autour de moi. Je l'ai fait en catimini.
Oui, alors on a plusieurs situations, mais en fait, dans cette situation-là, on va d'abord écouter, pouvoir juger la situation. Si on sent qu'il y a un danger, une agression, etc., on fera intervenir. On va prendre la responsabilité de ce qu'on appelle la levée de doute, de comprendre vraiment ce qui se passe et faire intervenir si on juge nécessaire la situation. On peut aussi faire appel aux proches. Vous avez dans ce cadre-là un nombre de proches qui sont déterminés à l'avance, de contacts de proximité.
Mais qui va venir si, par exemple, j'ai appuyé et vous sentez qu'il y a un problème? Vous faites venir qui? Vous appelez la police? Est-ce que ce sont des agents Verisure qui
viennent? Non, ce ne sont pas des agents Verisure. C'est pas notre métier. Ce sera vraiment les forces de l'ordre, le SAMU, les pompiers, ou si on considère que la situation est complètement maîtrisée, un proche.
D'accord. Très bien. Donc vous servez de relais finalement.
Complètement. L'accompagnement.
Ça, c'est le premier bouton.
Deuxième bouton, on va avoir une fonctionnalité pour accompagner nos protégés dans des trajets qui, eux, jugent dangereux. Donc typiquement, peut-être, je rentre de soirée. Je vais faire un jogging seul dans la forêt, je vais partir une demi-heure, une heure, je vais déterminer un trajet, un temps de trajet, et si je ne suis pas arrivé au but au bout d'une demi-heure, Verisure, pareil, va prendre en charge la situation pour comprendre ce qui s'est passé, où vous êtes, est-ce que tout va bien.
Par exemple, je pars pour un jogging d'une heure, parce que je sais qu'à peu près c'est la durée de mon exercice physique.
Tout à fait.
Si ça dépasse une heure,
on va vous appeler. Pour savoir qu'est-ce qui se passe.
Donc là, c'est quelqu'un qui appelle ou c'est une IA? Comment ça se passe?
Non, c'est des individus, tout est humain. On est
d'accord.
Des humains qui protègent des humains. Donc c'est vraiment tout est humain parce qu'on considère que c'est le moment critique où voulez-vous avoir une réassurance humaine.
D'accord.
On va vérifier où vous en êtes, on va géolocaliser votre téléphone. Vous avez dit par exemple, je vais faire le tour de ma maison pendant une heure. Si au bout d'une heure, vous n'êtes pas du tout là, vous êtes à l'autre bout de la ville. On pense qu'il y a peut-être une situation, donc on va s'y intéresser. Si par contre vous êtes
donc vous allez m'appeler pour dire tout va bien, ça va.
Exactement. Okay. Est-ce que tout va bien? Et si vous n'êtes pas rentré, on va avoir cette conversation. Et donc dès que vous rentrez dans le périmètre géolocalisé de votre maison,
évidemment tout rentre dans l'ordre. Exactement.
Ça c'est une deuxième fonctionnalité.
Oui. Et la troisième.
La troisième fonctionnalité, c'est pour les familles. On crée des cercles de confiance avec ses enfants ou même ses amis, avec des zones géographiques où on dit mon enfant doit être au collège à 8h30 du matin. Pareil. C'est une zone de confiance. Il doit être après rentré le soir à 4 heures dans la maison. S'il n'est pas là dans les moments venus, nous, ça nous crée une alerte et on va s'en occuper.
C'est-à-dire qu'on n'aura pas d'information si tout va bien.
Bien sûr.
En revanche, s'il y a une anomalie par rapport à la géolocalisation ou au temps donné de son arrivée, là, il y a un réveil en quelque
sorte. Exactement. Et nous activons notre service, nous activons l'assistance.
Vous parlez d'humain tout à l'heure. C'est vrai que on voit que énormément de secteurs sont bouleversés par l'intelligence artificielle. Oui. Est-ce que vous y songez à l'IA ? Est-ce que l'IA va pouvoir faciliter les choses ou peut-être remplacer parfois des humains dans certaines situations ?
Alors pour nous, l'IA, c'est une transformation en cours chez Verisure. Pour nous, l'IA, ça veut d'abord dire plus de sécurité en fait. Pourquoi ? Parce que notre métier, c'est un métier de secondes, de millisecondes, dans l'efficacité du traitement de l'information pour pouvoir intervenir. Et l'IA nous aide à gagner ces secondes, pour pouvoir en effet déterminer dans les millions de signaux qu'on reçoit, lesquels sont critiques, lesquels doivent être adressés le plus rapidement. Et donc c'est pour ça que l'IA, pour nous, est critique, parce que ça augmente la sécurité de notre service.
C'est-à-dire que vous allez pouvoir améliorer vos statistiques ?
Complètement, hein. On le voit aujourd'hui, en fait, on le voit déjà aujourd'hui, où typiquement, le nombre de secondes qu'on va prendre pour prendre une alarme critique va être de plus en plus court.
Merci beaucoup, avec Alex Roman Curtil, vous êtes directeur général de Verisure France, avec donc ce nouveau service qui vient d'arriver, ce service d'assistance aux personnes hors de chez elles. On n'a pas parlé du tarif, ça coûte combien ?
Très simple, 4,99€ par mois ou gratuit pour tous les protégés Verisure.
Donc si j'ai un abonnement Verisure, c'est compris dans l'abonnement. Exactement. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Tech & Co, la quotidienne. On se retrouve demain, mercredi. Vous avez raté un bout de cette émission. Bien, n'hésitez pas. Hein. Les replays, les podcasts seront là dans quelques minutes. Bien sûr, vous pouvez nous retrouver en audio ou en vidéo. Et j'aurai le plaisir d'être là, bien sûr, fidèle au poste, demain, mercredi, dès 19h30. Belle soirée et à demain.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. We'll be right back.